Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC et sur RMC Story. On est ravis d'être avec vous tout l'été. C'est Apolline Matin en direct jusqu'à 9h avec toute l'équipe pour ce mardi 21 juillet. Manu Le Chypre est avec nous. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Avec Victor Pourchet, Charlène Villemer pour la météo, Quentin Vinet pour le journal. Et avec vous au 32-16, si vous êtes agriculteur ce matin, est-ce que vous vous réveillez soulagé? Le projet de loi d'urgence du gouvernement a été adopté hier soir à l'Assemblée dans une ambiance électrique avec des mesures qui font débat sur l'eau, le stockage, les bassines. Les règles vont s'assouplir et sur le retour des pesticides, notamment l'acétamipride qui va pouvoir être réautorisé. Bonne nouvelle ou catastrophe écologique? Un agriculteur de la Confédération Paysanne sera avec nous. Il est plutôt en colère contre ces décisions. Ça vous fait réagir? Vous venez en débattre au 32-16 et à 7h40. La ministre Aurore Berger sera mon invitée. On parlera aussi avec elle de ce projet de loi du gouvernement visant à protéger les mineurs contre les pédocriminels, texte qui sera soumis aujourd'hui au vote des députés, avec notamment la vérification des antécédents judiciaires de tous ceux qui s'occupent des enfants, dans le périscolaire notamment. Est-ce qu'il faut instaurer la perpétuité pour les auteurs de viols en série sur les mineurs? Ça ferait partie des questions qui font débat. On vous attend au 32-16. Enfin, le voile, faut-il l'interdire partout dans l'espace public? Le RN veut un référendum en cas de victoire de Marine Le Pen pour l'interdire dans les services publics et à terme dans la rue. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous, comme le RN, que c'est un instrument de soumission qu'il faut faire disparaître? Ou est-ce qu'on confond islam et islamisme? 32-16, le WhatsApp RMC, c'est le 06 12 424 424. On lit tous vos messages. Le journal de 7h dans quelques secondes. D'abord, la météo avec Charlène Villemer. Et donc, 6 départements qui sont toujours ce matin en vigilance canicule.
Et oui, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et puis la Corse. Fin de la vigilance annoncée ce soir pour le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et cette grosse différence de masse d'air, notamment frais au nord. Ce matin, on a des températures inférieures à 10 degrés, notamment à Rouen. Temps globalement très ensoleillé partout ailleurs avec toujours ces températures très chaudes dans le sud. On attend jusqu'à 39 degrés dans le Var comme hier. Et partout ailleurs, on est dans les normales de saison entre 25 et 30 degrés aujourd'hui.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Bon réveil, vous êtes bien sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et à la une, le vote à l'Assemblée de la loi d'urgence agricole.
Le texte qui réintroduit 2 pesticides controversés, notamment la soirée était agitée. Vous allez voir le gouvernement ouvertement critiqué par des députés de son propre camp. À la une aussi ce matin, le gouvernement qui réfléchit à rendre obligatoire la vaccination des soignants contre la grippe. Et on va revenir aussi sur l'image de la soirée, vraiment impressionnante. 2 millions de personnes hier soir à Madrid pour le retour des champions du monde espagnol.
Serait très agité à l'Assemblée nationale.
Où les députés ont donc finalement adopté le projet de loi d'urgence agricole promis par le gouvernement. 296 voix pour, 224 voix contre ce texte qui sera définitivement adopté en cas de vote au Sénat aujourd'hui, ce qui a priori ne fait aucun doute. Mais donc, les débats étaient houleux parce que le bloc central, vous le savez, était fragmenté, que Matignon avait décidé de ne pas toucher à la réintroduction contestée de 2 pesticides et que ce choix a ouvertement été critiqué hier dans l'hémicycle par des membres de la majorité. C'est ce que nous raconte Romain Cluzel.
Soupir de soulagement pour Jean-René Cazeneuve après le vote favorable hier soir. Le député Renaissance le rappelle, l'acétamipride ne sera autorisé que sur avis de l'autorité de sécurité sanitaire.
En aucune manière, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les réintroduire. On donne simplement le dernier mot à l'ANSES.
Pourtant, son collègue du même groupe, Éric Botorel, a voté contre le texte. Il refuse tout retour de cet insecticide qui a fait l'objet d'une pétition largement signée l'été dernier.
On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'une mobilisation citoyenne qui aboutisse à plus de 2 millions de signatures, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Si l'acétamipride est de nouveau présente, et a priori ça a l'air de plaire à Mme Genevard, c'est le choix du gouvernement.
L'opposition est encore plus nette à gauche. L'écologiste Benoît Biteau dénonce un texte contre-productif pour les agriculteurs.
Je vous prédis que dans moins de 6 mois, les agriculteurs sont encore dans la rue parce que ce texte-là ne va rien régler. Va même continuer de les enfoncer dans une ornière dont ils n'arrivent pas à se sortir.
Et comme les écologistes, les socialistes et les insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptent saisir le Conseil constitutionnel.
On va y revenir juste après le journal et on vous attend si vous êtes agriculteur soulagé ou choqué par ces mesures. Est-ce qu'on parle de catastrophe écologique ou de cadeau fait aux agriculteurs? Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens? On vous attend au 32-16. Autre dossier sur la table, celui de la vaccination obligatoire pour les soignants.
Alors le gouvernement a dit dans la soirée qu'il allait étudier les conditions de déploiement d'une obligation vaccinale pour tous les professionnels de santé. Cette obligation vaccinale a en fait été recommandée hier dans un avis qui était très attendu par la Haute Autorité de Santé, justifié, je la cite, par l'ampleur du fardeau sanitaire que représente la grippe. Concrètement, Lucas Lebert pour RMC, qu'est-ce qui est prévu désormais?
Le ministère de la Santé doit d'abord déterminer d'ici les prochaines semaines qui sera concerné par cette obligation de vaccination contre la grippe, quels soignants et dans quel établissement. Autre question en suspens, comment s'assurer qu'elle soit bien respectée? La concertation sera conduite avec les représentants des professionnels et des étudiants ou encore les fédérations sanitaires, puis tout cela devra faire l'objet d'un décret. Aucune sanction ne sera appliquée la première année d'application, précise le gouvernement. La Haute Autorité de Santé recommande de déployer en priorité cette obligation vaccinale dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée, là où les résidents sont les plus âgés et en contact répété avec les soignants, avant un déploiement progressif dans les autres lieux concernés, les hôpitaux par exemple. Elle rappelle que la grippe a fait près de 12 700 morts l'hiver dernier.
Et si vous êtes soignant, là aussi, hein, on vous attend, vous êtes soignant, vous travaillez dans un EHPAD, dans un hôpital, est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à cette obligation vaccinale? On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Alors la bonne nouvelle ce matin nous vient du Var, où les pompiers disent avoir fixé le feu qui a parcouru 200 hectares depuis dimanche près de Draguignan, où une enquête est ouverte pour tenter d'en connaître l'origine. Fixé, ça veut dire que les flammes ne progressent plus, hein, dans le jargon des pompiers, mais les dégâts sont bien là, nous dit Charlotte Guerre sur place pour RMC.
Des arbres nus et une terre calcinée, pleine de cendres. Gaëtan observe en silence, triste, la colline noircie par l'incendie.
Ah, ça fait mal au cœur, notre forêt dans cet état, quoi.
Comme beaucoup d'habitants, il redoute les prochains jours.
Par rapport au vent qui a des reprises, j'ai peur que ça empire, quoi.
C'est précisément pour ça que les pompiers déploient des centaines de mètres de tuyaux sur toute la colline qui répandent une mousse qui humidifie et refroidit les sols, comme l'explique le lieutenant Ramani, officier dans le Var.
Traiter les points chauds pour éviter les reprises, mais en même temps traiter donc cette partie lisière pour éviter de gagner en superficie de brûlé.
Des moyens aériens sont également déployés pour venir en aide aux équipes mobilisées au sol.
Les avions, les hélicoptères, des équipes spécialisées telles que les drones qui nous permettent de venir avec leurs capteurs repérer des points chauds qu'on n'aurait pas vus à l'œil nu.
Une vigilance accrue, d'autant que les conditions météorologiques resteront défavorables toute la semaine avec du vent chaud et sec.
Alors il y a 5 départements qui sont au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie ce matin près de la Méditerranée. Mais c'est en Vendée, hier soir, au Sable d'Olonne, qu'un camping et 2000 personnes ont été évacuées en raison du feu. En Loire-Atlantique aussi, à Nantes, une cinquantaine d'habitations évacuées en fin de journée en raison d'un feu qui a pris dans un bidonville près du périphérique. Je reprends là les termes de la préfecture.
Il est 7h05 sur RMC. On n'en finit plus de subir les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Où les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran. Cette nuit, l'Iran qui a répliqué en retour en visant les pays du Golfe Persique. L'Iran aussi pointé du doigt par la France pour, je cite, une intimidation extrêmement grave, c'est ce que dit le Quai d'Orsay, à l'égard de 2 agents de l'ambassade de France à Téhéran qui ont été retenus, même malmenés dimanche par les services de sécurité iraniens. Vous avez des précisions sur ce qui s'est passé, Inès Zegloul?
Retenu, selon nos informations, par les services de sécurité iraniens en plein Téhéran, sur le lieu de leur interpellation, l'un d'entre eux aurait été agressé physiquement. Les 2 diplomates français, en plein exercice de leurs fonctions, sont questionnés pendant de longues heures, et ce, malgré leur immunité diplomatique. C'est gravissime, inadmissible, condamne le chef de la diplomatie française. Et pourtant, juge Guillaume Lagane, professeur spécialiste en géopolitique, ce n'est presque pas étonnant.
Cet acte déclare qu'il est là pour envoyer un message à la France.
L'Iran reste en guerre, rappelle-t-il, en guerre contre les États-Unis.
Les forces militaires françaises ont quand même aidé leurs alliés, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït. Et peut-être que créer un tel incident diplomatique, c'est une autre manière pour les radicaux de montrer leur hostilité à tout accord avec les Occidentaux.
Reste qu'il s'agit d'une violation du droit international et cela ne restera pas sans conséquences, prévient le Quai d'Orsay.
Et conséquences de la situation justement au Moyen-Orient, et bien les prix des carburants qui remonte en flèche, repassant la barre des 2,14 € de plus en une semaine pour le gazole, 9 centimes de plus pour le sans-plomb, selon les chiffres du site carbu.com.
C'est l'une des infos de la matinée. Le nouveau président du Louvre annonce la réouverture de la galerie d'Apollon.
Oui, celle qui, souvenez-vous, avait été cambriolée en octobre dernier. Elle rouvrira donc demain, ça tombe bien, on est en plein été, mais alors elle sera vide. Le nouveau président du musée explique en fait, dans le journal Le Parisien, qu'il veut transformer cette galerie d'Apollon en galerie des glaces, comme à Versailles, avec l'espoir d'attirer des mécènes pour financer le chantier déjà estimé à 1 milliard d'euros. Et que penser de cette réouverture? Question posée à Didier Rickner du magazine La Tribune de l'Art.
Dans un premier temps, il fallait la rouvrir. Donc qu'on la rouvre vide n'est pas forcément choquant. Ça donnera peut-être l'occasion aux visiteurs de regarder les peintures du plafond, les tapisseries, de regarder les objets d'art que constitue cette galerie. N'oublions pas que le Louvre est avant tout un palais avant d'être un musée, et que c'est une galerie qui avait les mêmes fonctions que la galerie des glaces. Oui. Une galerie qui est faite pour le décor, qui n'est au départ sûrement pas faite pour exposer les bijoux de la couronne, même si ça fait très longtemps qu'ils y étaient. Ça n'est pas forcément une mauvaise idée de les mettre ailleurs. Qu'il y ait un endroit qui soit fermé, qui soit sans fenêtre, et par lesquels les cambrioleurs ne peuvent pas rentrer facilement.
Paul Seixas va-t-il continuer d'épater la galerie, lui qui a un peu craqué dimanche? L'état du jour lui convient normalement sur le Tour de France qui reprend aujourd'hui au bord du lac Léman. Mais ce sera tout sauf une promenade, hein, prévient l'organisation, à contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains, avec une longue montée de 9 km pour commencer, puis une descente qui est décrite comme dangereuse.
Allez, à 7h08 sur RMC, direction Madrid, pour vraiment l'image très impressionnante de la soirée. C'est le monde fou dans les rues de la capitale espagnole.
Pour célébrer les nouveaux champions du monde, hein, qui ont paradé puis participé à une grande cérémonie dans la capitale devant plus de 2 millions de personnes. Voilà ce qu'écrit ce matin la presse en Espagne. Pour vous donner une idée, 2 millions, c'est énorme dans une ville, une capitale de 3,5 millions d'habitants. Corentin Roland nous raconte.
Un bus à Impérial remonte les grandes artères de Madrid, estampillé de 2 étoiles et de l'inscription Reyes del Mundo, roi du monde. Rodri, le capitaine de la sélection espagnole, brandit le trophée doré de la Coupe du Monde. Après leur victoire dimanche face à l'Argentine, à New York, les champions du monde sont de retour en Espagne. Le trajet de près de 3 heures vers le centre de la capitale est escorté par des milliers de supporters.
Je viens d'Estonie, même si je suis espagnol. Je suis venu spécialement pour la célébration parce que c'est fantastique.
Il y a beaucoup de monde, on est serrés les uns les autres, mais on a tellement de chance. C'est un rêve d'être champion du monde.
Je suis très ému parce que je vois l'euphorie et le bonheur que notre sélection procure chez les gens.
Une scène est érigée place de Cibeles. Lunettes de soleil sur les yeux, une superstar y prend la lumière. L'attaquant Lamine Yamal esquisse quelques pas de danse avant les mots de son sélectionneur Luis de la Fuente.
Merci à tous de nous avoir soutenus. Ce succès est le vôtre. Vive l'Espagne!
Mené par le meilleur joueur du mondial Rodri au micro, la fête s'est poursuivie toute la nuit à Madrid.
Alors vous imaginez bien que c'était pas la même ambiance en Argentine où des milliers de personnes attendaient les Argentins, les perdants de la finale à l'aéroport de Buenos Aires sous la pluie. Le tapis rouge a quand même été déployé. Tiens, je vous signale que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire sur les incendies en fin de match après la finale dimanche, impliquant notamment l'ancien parisien, l'Argentin Leandro Paredes, qui a littéralement agressé deux joueurs espagnols.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h10 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. On vous en parlait dans le journal. Le projet de loi d'urgence agricole a donc été adopté hier soir dans une ambiance électrique à l'Assemblée nationale, ambiance électrique notamment sur la question des pesticides. Bonjour Stéphane Gallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne, troisième syndicat agricole, syndicat qui a manifesté hier près de l'Assemblée nationale contre la réintroduction de l'acétamipride, ce pesticide dangereux notamment pour les abeilles, qui va donc pouvoir être réautorisé, mais avec des garanties, disent les défenseurs du texte, puisque c'est l'ANSES, autorité scientifique, qui devra donner son feu de vert. Ça vous semble insuffisant comme garantie ?
Bah, c'est insuffisant, puisque l'acétamipride ou le retour de ces insecticides interdits va pas résoudre le problème des paysans et des paysannes. En fait, c'est un recul environnemental qui va pas résoudre sur le fond ce qui traverse le monde agricole. Donc nous, on est très très en colère de l'adoption de cette loi, pas seulement pour le retour de ces insecticides, mais dans son intention entière, c'est-à-dire vouloir poursuivre un modèle qui fait disparaître des paysans et des paysannes dans les campagnes.
Mais sauf que tous nos voisins européens utilisent ces pesticides. Qu'est-ce que vous dites à ces producteurs français de betteraves, de noisettes, qui ne peuvent pas produire sans et qui voient leurs voisins européens de toute façon utiliser ces pesticides pour des produits qu'on va ensuite importer en France ?
Bah oui, mais la solution, c'est pas d'aller vers le moins 10 ans environnemental, parce que la prochaine étape, ça sera le moins 10 ans social, en vérité. Si on court après une compétition vers le pire, on va vers la catastrophe. On est quand même dans une situation climatique qui devrait nous appeler à une vraie bifurcation. Alors la solution, c'est de protéger, oui, c'est de nous protéger, nous, paysans et paysannes, de la concurrence déloyale, mais ça se fera pas en abaissant nos normes environnementales ou sociales. Ça se fera en mettant en place des outils de régulation du marché, des outils de protection de nos filières agricoles qui sont des filières de qualité, mais certes, des outils économiques, en fait. Mmh. C'est par là qu'il faut prendre le sujet, mais pas en abaissant. En plus de quoi, je vais vous dire, hein, sur la filière betterave, ils sont impactés beaucoup plus par la question économique et la dérégulation du marché que par l'absence d'acétamipride. Dans cette année, ils ont fait une production assez record, mais ce qui les met à mal, c'est d'être en concurrence sur un marché international. Donc c'est
Stéphane
de ça
Gallet, restez bien en ligne, on fait vivre le débat sur RMC. Il y a un autre agriculteur qui nous a appelé au 32-16, c'est Cédric qui est en ligne avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur dans l'Indre-et-Loire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet de loi qui a été adopté hier soir?
Bah, je trouve que c'est une bonne chose parce que je peux rejoindre que ça va pas régler tout avec mon collègue agriculteur, que ça va pas régler tous les problèmes économiques, mais ça va sûrement régler une partie de la compétitivité des exploitations françaises. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est vrai qu'il est présent. On le voit notamment, moi je suis en zone intermédiaire, ce qu'on appelle une zone intermédiaire avec des faibles potentiels agronomiques. Et on se rend compte que sans eau, demain, nous, on aura en Indre-et-Loire quasiment plus, on aura plus de la moitié des départements qui sera en friche, qui sera délaissé de l'agriculture parce qu'aucune agriculture sera possible sans eau.
Donc vous, c'est les mesures sur l'eau qui vont vous aider, notamment l'assouplissement des règles pour pouvoir stocker de l'eau?
Il y a celle-ci, et puis après il y a aussi la facilité pour construire des nouveaux bâtiments d'élevage. Aujourd'hui, quand on voit qu'on manque d'œufs, qu'on va importer des œufs qui viennent d'Ukraine, qui sont faits dans des façons, on va dire, déplorables en termes de bien-être animal par rapport à ce qu'on peut faire en France, je pense qu'il faut, c'est pas du moins 10 ans, comme disait mon collègue, c'est être réaliste par rapport aux besoins des Français. Aujourd'hui, les Français ont des besoins en termes de quantité pour manger, ont des besoins en termes de prix, qui sont pas prêts à mettre plus pour manger différemment. Il y a un moment donné, faut avoir cette réalité-là en tête, c'est qu'on produit pour un consommateur et que le consommateur, aujourd'hui, n'est pas prêt à payer un produit 20, 30, 40% plus cher parce qu'il est produit différemment que chez nos voisins européens ou même mondiaux.
Merci pour votre témoignage, Cédric, dans l'Indre-et-Loire. Merci à vous, Stéphane Gallet, porte-parole de la Confédération Paysanne. On fait vivre le débat sur RMC. On voit que voilà, c'est aussi deux modèles d'agriculture qui s'opposent sur ces questions-là. Merci à tous les deux. Il est 7h15 sur RMC. Et cet été encore, les hôtels et restaurants cherchent désespérément des bras. 180 000 saisonniers manquent à l'appel. Bonjour Catherine Kérard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On en parle dans un instant. Vous lancez un appel ce matin. Venez bosser chez nous. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h18, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'été a bien démarré, mais dans les lieux touristiques, il y a un secteur qui cherche encore beaucoup de bras, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Rebonjour à vous Catherine Kérard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente donc du groupement des hôteliers et des restaurateurs de France. Il manque donc plusieurs dizaines de milliers de saisonniers. 65 000 offres non pourvues encore aujourd'hui, ça n'attire plus le poste de saisonnier?
En fait, nous avons deux types de saisonniers. Nous avons les saisonniers professionnels qui alternent saison estivale et saison hivernale. Et puis, nous avons également besoin de renfort, notamment avec les étudiants. Et il nous manque toujours un peu de saisonniers, effectivement.
C'est pour quel poste? C'est des postes de serveur, d'accueil?
Poste de serveur, cuisinier, poste de plongeur, poste d'employé d'étage, tous les postes à forte intensité, tous nos métiers à forte intensité de main-d'œuvre.
Alors la question, on se la pose tous les étés, puisque tous les étés, ce sujet émerge. Est-ce qu'on se donne les moyens de bien les accueillir, de bien les rémunérer, de les loger? Est-ce que c'est pas ça le cœur du problème?
En fait, on a plusieurs sujets. D'abord, le logement des saisonniers est un vrai sujet, puisque quand on arrive sur une station balnéaire, on a besoin, pour accueillir nos clients, il nous faut également des professionnels, et donc on a besoin de les loger. Ça, c'est un vrai sujet de tension. Et puis, il y a des sujets de mobilité, puisqu'on travaille également en horaire décalé. Donc, pas possibilité toujours d'avoir des transports en commun. Et on est obligé souvent d'éloigner nos salariés des centres touristiques pour pouvoir les loger à des prix décents.
Mais donc, les professionnels, vous dites le logement, c'est le nerf de la guerre, mais il y a beaucoup de professionnels qui ne peuvent pas proposer de logement.
Absolument.
C'est ça aussi qui limite.
Absolument. C'est une vraie problématique de pouvoir loger aujourd'hui nos saisonniers. Beaucoup de professionnels s'y mettent, mais ça ne suffit pas. Donc, on recherche différentes activités, différents sujets, avec les bailleurs sociaux notamment, avec les collectivités territoriales, avec les campings également. En tout cas, tout est bon pour loger nos saisonniers et puis chez l'habitant également.
Et les salaires, vous jugez que les efforts sont suffisants chez les professionnels pour être vraiment attractif?
Mais écoutez, déjà dans notre secteur d'activité, les salaires ont augmenté de plus de 20% en 4 ans. Donc, notamment sur les minima sociaux. Donc, pour nous, c'était important effectivement, mais ça ne suffit pas et on a aussi besoin de former nos saisonniers, notamment les non professionnels, les étudiants, pour accueillir au maximum. Mais ce qui nous contraint aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir toujours ouvrir suffisamment nos restaurants ou nos rangs pour pouvoir accueillir toute la clientèle.
Alors il y a des témoignages qui nous parviennent de saisonniers, notamment sur le WhatsApp RMC Victor.
Et des premières fois, comme Mathias qui nous dit, c'est la première fois que je suis saisonnier dans un camping, et je comprends pourquoi certains fuient. Les horaires sont très compliqués pour des payes pas forcément beaucoup plus élevées que le SMIC. Et puis on a Greg qui nous dit, alors lui c'est pas la première fois, mais qui nous dit qu'il va arrêter. Il va arrêter d'être saisonnier, il a un contrat de 43 heures, ça c'est ce qui a marqué sur le papier, mais souvent il fait beaucoup plus et les patrons n'ont pas toujours les moyens de payer les heures supplémentaires.
Ouais. On abuse un peu parfois des petites mains l'été parce qu'il y a du monde, parce qu'il faut un peu étendre les horaires.
Je crois que notre secteur d'activité s'est énormément doté d'outils digitaux qui nous permettent aujourd'hui de bien contrôler les horaires de travail. C'est certes peut-être pas complètement suffisant, mais ça tend dans le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut compter les heures, c'est possible. Et puis n'oublions pas que si les heures sont pas payées au mois le mois, elles sont souvent récupérées à la fin de la saison.
Vous disiez, ça a un effet sur l'activité d'un certain nombre d'établissements. Ça veut dire quoi, qu'on doit ne pas ouvrir certains jours parce qu'on n'a pas le personnel pour ouvrir?
Oui. Avant 2022, un établissement en saison ne fermait jamais. C'était ouvert 7 jours sur 7. Depuis la crise Covid, on voit maintenant des restaurants qui ont un jour de fermeture ou un soir de fermeture.
Ok, très bien. Vous avez des solutions que vous proposez pour essayer d'être plus attractif. Qu'est-ce que vous dites à vos adhérents, aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie?
Alors d'abord, c'est un gros travail local en concertation, d'abord avec les pouvoirs publics, avec les autorités locales, notamment avec les mairies, les Comcom pour les PLU notamment, pour pouvoir construire davantage de saisonniers, ou également organiser des circuits de mobilité destinée aux saisonniers, à tous les saisonniers.
Il est encore temps, en tout cas, si vous cherchez du travail, hein, on l'a compris, 65 000 offres non pourvues pour aller travailler cet été sur les lieux de vacances, dans les hôtels et dans les restaurants. Merci Catherine Carrard d'être venue ce matin sur RMC, RMC Story. Vous êtes la présidente du groupement des hôtelleries, et restauration de France. Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chiffre. Manu, on ne met pas assez de sous dans le ferroviaire.
Oui, c'est ce que nous dit un classement allemand. 70 euros par Français et par habitant.
À tout de suite.
Et par an, pardon.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25, vous êtes bien sur RMC et c'est l'heure de l'économie avec Manu Le Chiffre. Et le chiffre du jour, c'est 70 euros, c'est ce que dépensent chaque année les Français pour financer le train.
Oui, vous connaissez ce fameux dicton, on n'en a toujours que pour son argent. Eh bien, cas pratique avec le train. Je ne vous rappelle pas tous ces Ouigo supprimés à cause des fortes chaleurs, les retards sur les TGV. Et alors, a priori, on a une partie de l'explication avec les calculs de l'association à allemande Allianz pour le rail, puisque selon son classement 2025, la France se retrouve lanterne rouge des pays étudiés avec seulement 70 euros d'argent public dépensé par habitant pour le rail. C'est 5 euros de plus qu'en 2024, c'est 24 de plus par rapport à 2022, donc ça augmente. Mais on est très très loin de ce que dépensent nos voisins. 209 euros par exemple pour la Grande-Bretagne, 222 pour l'Allemagne. Et puis alors vous savez, tout le monde loue la qualité, la ponctualité des chemins de fer suisses. Et ben nos amis suisses, ils dépensent plus de 500 euros par habitant et par an pour le rail. Donc oui, effectivement, la France fait peu.
Et la France n'investit pas dans son chemin de fer.
Alors, c'est plus subtil que ça. En fait, vous vous doutez bien que s'il y a des écarts aussi importants, c'est qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte. Et effectivement, n'est pris en compte dans ce comparatif que l'argent versé par l'État pour le rail. Or, en France, l'État s'est complètement défaussé sur la SNCF pour financer un réseau qui est pourtant public. C'est exactement comme si on avait demandé à Air France, par exemple, de financer la construction des aéroports, puisque ce sont les recettes des ventes de billets et d'autres activités de la SNCF qui sont transférées à SNCF Réseau, qui, lui, investit. Alors, SNCF Réseau qui profite aussi des péages les plus élevés d'Europe payés par les concurrents de la SNCF comme Trenitalia, mais c'est un modèle extrêmement fragile pour financer notre rail. Qu'est-ce qui se passera, par exemple, le jour où la SNCF ne fera plus de profit? La seule solution prévue par l'État, c'est la taxation des péages autoroutiers. Une partie serait reversée à la SNCF. On peut penser que c'est très insuffisant. Donc oui, la SNCF fait des efforts pour moderniser notre réseau ferroviaire. L'État, lui, n'en fait aucun.
Mais donc c'est nous qui payons avec nos billets de train, en fait.
En partie, c'est effectivement ça, c'est nous qui payons avec nos billets de train, mais sachant que nos amis suisses payent aussi très cher pour leurs billets de train, nos amis allemands aussi et nos amis britanniques aussi.
Emmanuel Le Chip, qu'on retrouvera tout à l'heure après le journal de 8h, on parlera de l'impact de la canicule sur la croissance. On a des premiers chiffres. À tout à l'heure, Manu. 7h27, dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et juste après, l'invité du jour, c'est la ministre Aurore Berger. On va revenir sur le vote de la loi agricole hier soir, sur la question de la protection des enfants aussi contre les pédocriminels. Le projet de loi du gouvernement est soumis aujourd'hui au vote des députés, avec notamment la question de la perpétuité. Faut-il la perpétuité pour les auteurs de crimes en série, de viols en série sur mineurs. La fin de la prescription aussi pour les victimes, on en parle à 7h40 et vous venez bien sûr dialoguer, interpeller la ministre, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC et RMC Story. Il est 7h29.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les soignants devront-ils bientôt se faire vacciner contre la grippe? Le gouvernement planche sur une obligation, mais la mesure divise sur le terrain. Le RN change de ton sur le voile. Fini l'interdiction dans la rue défendue en 2022 par Marine Le Pen. Place désormais une proposition plus ciblée. Le RN se dit prêt à consulter les Français par référendum. Et après un jour de repos, Paul Sexas repart à l'attaque avec de grandes ambitions dans la dernière ligne droite du Tour de France.
La vaccination contre la grippe sera-t-elle bientôt obligatoire pour les soignants?
Le gouvernement ouvre la porte à cette mesure après l'avis favorable des autorités sanitaires, des étudiants, au personnel des EHPAD, en passant par les infirmières libérales. Tout le monde serait concerné. Une mesure, Cassandre Brault, qui ne fait pas l'unanimité.
15 ans que Sarah est infirmière, elle ne s'est jamais fait vacciner contre la grippe.
Ça devrait être un choix plutôt qu'une obligation. Après, on se protège avec des masques, des gants. Je pense que c'est déjà pas mal.
Ce vaccin pourrait devenir obligatoire au sein de son service.
On a déjà vécu tout ça avec le Covid, où on a quand même beaucoup de nos collègues qui ont refusé le vaccin, qui ont effectué leur droit de retrait et qui sont vus licenciés. Donc moi, j'ai peur que ça recommence.
Aide-soignante, Anaïs s'est fait vacciner il y a 2 ans, mais pas l'année dernière.
Je tombais souvent malade cette année-là. Je pense que ça peut être important de nous faire soigner aussi pour éviter de contaminer des personnes plus fragiles.
C'est aussi ce qui pousse Jérôme, médecin, à le faire chaque hiver.
Ça me choque pas que ce soit obligatoire, mais bon, le mieux, ce serait de faire de l'éducation, de la formation. Après, malheureusement, des fois, il faut en passer par l'obligation.
Le gouvernement doit à présent décider des modalités d'application de cette mesure, notamment les professions de santé qui seront concernées. Et c'est ce qui inquiète Jeanne Pinte, présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
C'est là où on a nous des craintes. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que cette mesure, si elle doit se rendre obligatoire, la vaccination contre la grippe, c'est qu'elle soit équitable et qu'elle concerne tous les professionnels de santé.
De son côté, la Haute Autorité de Santé recommande de déployer l'obligation vaccinale en priorité dans les EHPAD et dans les unités de soins de longue durée.
Une concertation doit être menée dans les prochaines semaines avec les représentants des professionnels et des étudiants au ministère de la Santé. Aucune sanction ne sera appliquée la première année.
Et si vous êtes soignant, ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16. Autre sujet qui va sans doute vous faire réagir et qui peut faire débat ce matin au 32-16, c'est le voile qui revient au cœur du débat politique en plein été.
Le Rassemblement National se dit prêt à consulter les Français par référendum sur son interdiction dans les bâtiments publics en cas de victoire en 2020. 27, une position Thomas Becker qui marque un changement par rapport à 2022.
Oui, d'un côté, il y a la doctrine historique du FN puis du RN de Marine Le Pen. Interdire le port du voile partout, y compris dans la rue. Désormais, le RN imagine un référendum. Il porterait sur une loi plus générale de lutte contre l'islamisme qui comprendrait l'interdiction du port du voile dans les bâtiments publics. Plus d'interdiction pure et simple, parce qu'au sein du parti, la mesure crispe interroge, y compris Jordan Bardella ou la députée Laure Lavalette. C'est répulsif dans l'opinion publique, ajoute un député RN. Pour un autre, c'est clair, le référendum est une manière d'enterrer l'interdiction du voile parce qu'il y a de bonnes chances qu'il ne voit jamais le jour, ajoute ce même député, référence aux contraintes juridiques qui pourraient empêcher Marine Le Pen, si elle est élue, de poser directement la question aux Français.
Les députés ont tranché. La loi d'urgence agricole a été adoptée cette nuit avec une mesure polémique, la réintroduction dérogatoire de deux pesticides. Le texte doit désormais être examiné aujourd'hui au Sénat avant d'être définitivement adopté.
Les incendies se multiplient cet été.
Plus de 50 hectares parcourus par les flammes dans les Hautes-Alpes. Fort heureusement, aucune habitation n'est menacée. Un secteur difficile d'accès pour les pompiers, comme l'affirme le maire de Fressinière, Cyril Drujon d'Astros.
C'est l'accélération, parce qu'on regarde la nature brûler, et puis des flammes qui font une dizaine de mètres. C'est en haute falaise pour partie, donc les arbres qui brûlent, ils tombent, et puis ils mettent le feu au pied de la falaise. Donc ça repart d'en bas, enfin, voilà, c'est un cercle un peu vicieux. Donc là, on a une fumée très épaisse qui s'élève, et des flammes. Et ils prévoient une reprise un peu plus importante en milieu de matinée. La chaleur monte, donc le vent se met à souffler, voilà. Donc ça attise le feu quand il est encore présent. C'est quand même beaucoup d'inquiétude. Sur notre secteur, c'est le deuxième gros feu en 25 ans. J'allais dire, une fois que tout sera éteint et que tout sera noir, on n'aura plus que les yeux pour pleurer, mais pour l'instant, on est dans l'action. Donc voilà, c'est ce qui prend le dessus, et je pense que le contre-coup se fera après.
Et cet incendie au Sable d'Olonne, 13 hectares ont brûlé hier soir et plus de 2000 vacanciers ont dû être évacués d'un camping. Une centaine de pompiers mobilisés, épaulés par des bombardiers d'eau. Un autre feu a eu lieu hier dans un camping de Saint-Jean-de-Mont, toujours en Vendée. Une enquête ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie près de Draguignan dans le Var. Incendie fixé depuis hier soir et qui a parcouru près de 200 hectares. Les pompiers sont toujours mobilisés ce matin.
Il est 7h34 sur RMC. La famille de Joris prend la parole.
Cet homme de 21 ans s'est donné la mort il y a une semaine, jour pour jour, à Châteauneuf, dans l'Isère. Deux enquêtes ont été ouvertes et pour son oncle, il ne s'agit pas d'un geste isolé. Une plainte a été déposée. Ses proches ont lancé un appel à témoins pour que la vérité éclate. Vincent Chevalier.
La famille dénonce des insultes et des agressions à caractère raciste depuis 2 ans.
Joris se plaindra à plusieurs reprises, à différentes reprises, d'insultes, de sale bougnoul, sale arabe à son papa.
Selon son oncle, il est le bouc émissaire d'une bande de copains, notamment des rugbyman du club voisin que fréquente Joris, une bande qu'il retrouve fin juin à une fête de village.
Ils lui diront « Tire-toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis ils se moqueront de lui, ils l'insulteront, et puis là on a des témoignages qui diront même qu'ils l'ont mis tout nu à la buvette des conscrits.
S'il vit mal les jours qui suivent, Joris n'en parle pas à sa famille.
Il avait sa petite voiture, son petit travail, ses projets d'acheter sa maison. Voilà, il était mature, il aidait son papa. Ça transparaissait pas malheureusement.
Puis le jeune homme disparaît avant d'être retrouvé mort à côté de chez lui. Restent désormais pour la famille les 2 courriers qu'il a écrits avant de se suicider.
On pense que c'est une accumulation, c'est ça, d'insultes. Parce que voilà, sur les derniers temps, il faisait que de se plaindre à son papa, de sa couleur de peau. Il se sentait un peu basané, quoi. Ils ont réussi à le complexer, à lui faire regretter d'avoir des origines, quoi.
La famille attend désormais la vérité et la justice pour faire son deuil et pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres victimes.
C'est reparti sur la route du Tour de France après une journée de repos, place aux choses sérieuses.
Un contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains. Et Clément Brossard, le français Paul Sexas, 4e au général, espère frapper un grand coup et surtout grappiller du temps.
Oui, même si à l'aube de cette dernière semaine de course, Paul Sexas ne veut pas griller les étapes.
L'histoire du Tour, c'est à la fin du Tour qu'on l'écrit. À seulement 6 minutes 23 de la tête du classement général occupé par Tadej Pogacar, celui qui a découvert le cyclisme en Haute-Savoie, lieu de l'étape du jour, fait frissonner son père Emmanuel.
Je pense qu'il a un plan et il s'y tient, il sait gérer. Si on lui met pas trop la pression, ça peut aller au bout, on sait jamais. Il nous a toujours fait rêver, Paul.
Et si le directeur sportif de la Groupama FDJ, Stéphane Goubert, émet quelques réserves.
Mais je suis pas impressionné puisque j'avais dit qu'il ferait 3 du tour. Ce qui m'étonne et là où je serais vraiment attentif, c'est sur sa faculté de récupération sur la troisième semaine.
Le consultant RMC Sport, Jérôme Pinault, voit encore plus haut que le top 5 l'objectif annoncé par son équipe Décathlon CMA-CGM.
Mais je pense que lui, il a envie de mieux, il a croqué dans le tour, il fait partie des tout meilleurs. Il y a une semaine qui lui convient qui arrive avec un chrono puis deux grosses étapes de montagne. Avec ce qu'il nous a démontré jusque-là, il peut espérer monter sur le podium à Paris.
Ce qui ferait de Paul Sexas le plus jeune coureur de l'histoire du Tour de France sur un podium final.
Intégral Tour, c'est à partir de 14h et c'est bien sûr sur RMC.
On termine avec le Quintest à Vichy aujourd'hui, 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori est l'As, leur outsider est le 3, Salvo.
Clément Gouitz pour le journal sur RMC, il est 7h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on est avec Philippe au 32-16 qui vient de nous appeler depuis l'Ain. Bonjour Philippe.
Bonjour Sébastien Victor.
On parlait des saisonniers à l'instant avec notre invité. Plus de 60 000 offres non pourvues sur les lieux de vacances, les lieux touristiques, dans les hôtels, dans les restaurants. Vous êtes vous-même saisonnier ?
Non, je suis chef de cuisine dans un collège. Donc ce qui fait que comme je suis annualisé en temps de travail, je pourrais travailler un petit peu l'été pour dépanner ces patrons qui cherchent.
Ouais.
Mais il y a deux problèmes. Une, c'est mal payé. Et deux, quand vous travaillez un petit peu, vous redonnez tout aux impôts. Alors pourquoi faut aller au boulot ?
Donc, en fait, vous, l'été, vous êtes libre. Donc,
Oui, parce que je suis annualisé, je suis libre. J'aurai 15 jours, 3 semaines à peu près de dispo où je pourrais travailler.
Mais en fait, vous ne le faites pas, ça ne vaut pas le coup ?
Bah, quand on voit les salaires et puis qu'il faut ce qu'il faut redonner aux impôts, mais pourquoi vous voulez qu'on y aille ?
Vous l'avez déjà fait dans le passé ?
J'ai eu fait dans le passé, parce que quand je suis comme tout le monde, hein, quand on commence dans la vie active, les salaires sont pas hauts, il faut faire construire la maison, donc on va bosser. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit les contraintes imposées par l'État avec les impôts et puis tout ce qui s'ensuit, on ne libère pas assez le travail.
Mais vous avez regardé les offres, parce que notre invité nous disait à l'instant que les salaires dans la restauration avaient pris 20% en 4 ans, que les restaurateurs faisaient justement des efforts sur les salaires.
C'est faux. Puis alors moi, vous savez, je fais partie de ces vieux cuisiniers où si c'est pour aller bosser dans une tambouille, où ils font pas leur dessert, où c'est juste pour faire de ce qu'on appelle de la cuisine d'assemblage, ça m'intéresse pas du tout.
Donc, pas intéressé, en tout cas, vous allez profiter de vos vacances, Philippe.
Exactement, et puis ils ont qu'à conformer les cuisiniers, les payer comme il faut, puis arrêter de faire de l'assemblage.
Le message est passé. Merci Philippe d'avoir composé le 32-16.
Merci.
À très bientôt sur RMC. À suivre, 7h39. L'invité du jour, c'est vous, Aurore Berger. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes la ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Beaucoup de sujets abordés ce matin. On va revenir sur le vote hier soir du projet de loi agricole, le retour des pesticides et puis la protection des enfants contre les violences sexuelles. En débat aujourd'hui à l'Assemblée, faut-il la perpétuité pour les auteurs de viols en série ? On en parle dans quelques minutes, dans un instant. Et si vous nous écoutez, vous voulez réagir, vous composez le 32-16. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h41 sur RMC et RMC Story. Comment mieux protéger les enfants contre les pédocriminels ? Les députés votent cet après-midi. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Vous êtes la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, en charge aussi de la lutte contre les discriminations. On va revenir sur ces mesures soumises au vote aujourd'hui, destinées à protéger les enfants, notamment dans le périscolaire, la question de la perpétuité aussi qui fait débat contre les violeurs en série. On parlera du voile aussi que Marine Le Pen veut interdire. D'abord un mot sur le projet de loi agricole qui a été adopté hier soir tard dans l'hémicycle, dans une ambiance plus qu'électrique, sur la question de l'eau, sur la question des pesticides, avec l'acétamipride qui pourra être réautorisé. Vous, député, vous auriez voté ce texte ?
Oui, j'aurais voté ce texte parce que c'est un texte qui est équilibré, c'est un texte qui permet à nos agriculteurs de continuer à produire avec l'agriculture qui est la plus saine et la plus durable au monde dans notre pays, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de souveraineté. Mais si on veut rester souverain, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à produire. Et sur la question des néonicotinoïdes, de l'acétamipride en particulier, on l'a dit, ce ne sera pas une décision politique, ce sera une décision de l'autorité sanitaire qui sera prise, de savoir si c'est oui ou si c'est non, uniquement par dérogation. Donc c'est extrêmement encadré.
Est-ce qu'on va dans le sens de l'histoire quand on réintroduit des pesticides et quand on assouplit les règles sur l'eau alors qu'on traverse peut-être la pire canicule de ces 20 dernières années?
Je crois qu'il faut qu'on arrête d'opposer agriculture et écologie, parce que si on fait ça, alors je pense qu'on s'expose à des choses qui sont très graves dans notre pays, parce que d'ailleurs les agriculteurs ont été en première ligne dans les mouvements de canicule qu'on a eu à vivre. Ils ont été les premiers à être mobilisés, à être en soutien. Donc on a besoin de réconciliation, on n'a pas besoin d'opposition et de fracturation en permanence dans la société. On a besoin de souveraineté agricole. Je préfère qu'on produise en France plutôt que d'importer des produits avec des normes qui sont bien moins exigeantes que les nôtres.
Pourquoi il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée sur cette question de l'acétamipride? Les sénateurs ont introduit cette mesure dans le texte. Les députés hier soir ont déposé des amendements pour ouvrir ce débat. Le gouvernement a refusé de les inscrire à l'ordre du jour.
Mais parce qu'on a eu un débat à l'Assemblée nationale en première lecture, puis un débat au Sénat, et ensuite il s'est passé ce qui se passe sur chaque projet de loi. Commission mixte paritaire, des députés et des sénateurs qui se mettent d'accord sur un texte.
Mais il n'y a pas eu de débat sur cette question précisément
du PSC. Ce texte final, il est soumis au vote. Et donc il y a eu un vote. Il y a eu un vote souverain, large, des députés hier. Il y aura un vote aujourd'hui au Sénat. Donc à un moment, c'est la fonction même des parlementaires que de voter et que de décider sur des choses qui sont importantes, singulièrement comme celle-ci, c'est-à-dire garantir la souveraineté alimentaire de notre pays.
Alors venons-en à ce projet de loi qui sera soumis cette fois aujourd'hui au vote des députés sur la protection de l'enfance, notamment contre la pédocriminalité. Plusieurs mesures ont été ajoutées après le scandale du périscolaire, la vérification des antécédents judiciaires, après l'affaire Liana aussi. Et il était question d'instaurer la perpétuité pour les violeurs en série visant des mineurs de moins de 15 ans. Cette mesure a été rejetée à l'Assemblée, notamment par les voix de la gauche. Vous avez compris pourquoi ?
Non, moi je comprends toujours pas comment il est possible de se dire que pour des criminels qui violent en série des enfants, ils ne pourraient pas demain être condamnés à perpétuité. Je pense que ça suscite de la colère, de l'indignation et de l'incompréhension de la part des Français. On parle de pédocriminels, on sait qu'en cas de pédocriminalité, il y a très souvent de la récidive, c'est-à-dire des enfants qui sont ciblés. On parle d'enfants qui ont confiance dans les adultes. On parle de l'inceste, c'est-à-dire d'un parent, de celui qui est supposé protéger le plus, aimer le plus, sécuriser le plus et qui abuse de cette confiance pour dominer, pour contrôler, pour briser l'enfance de tant et tant d'enfants aujourd'hui. Et pour avoir rencontré beaucoup de victimes de violences sexuelles, elles ont souvent cette expression qui est de dire « mais nous, on a été condamnés à perpétuité ». Le fait d'avoir subi dans l'enfance des violences sexuelles ou l'inceste nous condamne à perpétuité. C'est toute une vie pour espérer et essayer de se réparer, et on n'aurait même pas la symétrique, c'est-à-dire on n'aurait même pas le fait que des criminels, eux, pourraient, il n'y a pas d'automaticité, pourraient être condamnés à perpétuité.
Il y aura donc un nouveau vote aujourd'hui.
J'ai demandé à ce qu'il y ait un nouveau vote. C'est une prérogative du gouvernement. On le fait dans des cas exceptionnels. Moi, j'ai estimé avec le Premier ministre que c'était un cas exceptionnel, que ça supposait de pouvoir en redébattre au sein de l'hémicycle, dans un hémicycle, j'espère, qui sera plein, avec des parlementaires nombreux aujourd'hui, parce que c'est un sujet essentiel. On parle de la protection de nos enfants. Donc j'espère que chacun va se ressaisir et que chacun pourra voter cette mesure aujourd'hui.
Il y aura bien une loi plus large contre les violences sexuelles, cette fameuse loi intégrale. Il était question d'une réunion aujourd'hui, vous nous le confirmez?
Oui, on se réunit cet après-midi même avec le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les parlementaires qui sont engagés sur le texte, juste après le vote qui aura lieu sur le texte sur la protection de l'enfance. Moi, je l'ai dit, le texte sur la protection de l'enfance, c'est un commencement, c'est un début, c'est un texte utile, solide. Il y a l'imprescriptibilité qui a été ajoutée à ce texte, c'est-à-dire garantir que les enfants qui ont été victimes aient toujours accès à la justice, parce qu'on sait que parfois, c'est des dizaines d'années après qu'on est en capacité de révéler les violences. La question du périscolaire, garantir que quand on dépose nos enfants à l'école le matin, eh bien, parfois, on les dépose avant que l'école ne commence, mais on ne connaît même pas l'identité de ceux auxquels on confie ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire nos enfants. La garantie de la vérification des antécédents judiciaires de tous ceux qui sont en contact des mineurs.
Donc, ça, oui, c'est le texte du jour.
Ça, c'est le texte du jour. Donc, c'est
pour
des choses utiles et importantes, mais oui, il y aura une loi intégrale.
Est-ce qu'il y aura une juridiction dédiée aux violences sexuelles comme le réclament les partisans de cette loi intégrale?
On a dit avec le garde des Sceaux qu'on était favorable au fait qu'il y ait des juridictions spécialisées. Donc c'est l'un des sujets qui doit pouvoir être abordé dans le cadre d'une loi intégrale. Donc on se réunit dès aujourd'hui à nouveau avec les parlementaires. Je réunis demain les associations, parce que c'est aussi un collectif d'associations à la fois féministes et de protection de l'enfance qui ont permis et qui ont mis dans le débat, bien avant d'ailleurs l'affaire Liana, la question d'une loi intégrale. Ça fait des mois qu'on y travaille, et on l'a dit, dès le mois d'octobre, ça pourrait être en débat à l'Assemblée nationale.
Aurore Berger, il y a une autre question qui concerne votre ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la question du voile qui revient dans le débat avant la présidentielle. C'est le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui annonce que l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public est bien au programme de Marine Le Pen et qu'elle envisage un référendum. Quelle est votre position de ministre sur le sujet? Est-ce que vous estimez, comme le RN, que c'est un instrument de soumission qu'il faut faire disparaître de nos rues, de nos espaces publics?
Déjà, il y a beaucoup de tergiversations, vraisemblablement au sein du Rassemblement national. Ils se sont aperçus que cette mesure, elle était clairement inconstitutionnelle. Donc, ils essayent de la revendre aujourd'hui sous forme de référendum. Je pense que c'est ça qu'il faut que chacun aussi mesure, parce que ça a été soi-disant une mesure phare du Rassemblement national pendant des années, de dire dans l'espace public, partout, le voile doit être interdit. Moi, j'ai une position qui a toujours été très claire. Moi, je suis pour l'interdiction du voile pour les enfants, parce que je pense que quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, eh bien, on est soumis aussi aux diktats des parents, aux règles qu'imposent les parents, et on n'a pas un libre arbitre nécessaire pour faire un choix en toute conscience. Mais je considère qu'on ne peut pas avoir une interdiction générale et qu'on ne peut pas avoir une interdiction dans l'espace public. C'est la liberté aussi des adultes de savoir si oui ou non ils souhaitent, elles souhaitent porter le voile. Ce qu'on doit toujours garantir, c'est que ça reste une liberté. C'est qu'aucune femme ne soit jamais contrainte de devoir le porter, ne se sente jamais contrainte de devoir le porter en fonction de telle famille, en fonction de tel quartier, en fonction voilà, de ce qu'on lui imposerait.
Est-ce que pour vous, c'est un instrument de l'islamisme, comme le disent les proches de Marine Le Pen?
En fait, je pense qu'on peut pas voir derrière chaque femme voilée une islamiste en puissance. Si c'est ça qu'entend le Rassemblement National, alors c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on doit faire la distinction entre la garantie du respect individuel des libertés. C'est une liberté de le porter comme de ne pas le porter. Moi, je considère qu'il y a une distinction à faire en fonction de l'âge. C'est la même chose sur la question de la protection de nos enfants. Encore une fois, quand on a 9 ans, on n'a pas le même libre arbitre que quand on en a 20 ou quand on en a 40. Et moi, je ne considère qu'on ne peut pas empêcher les femmes dans notre pays, de tout simplement être libre de le porter ou de ne pas le porter.
Juste un dernier mot, Aurore Berger, très vite sur la nomination du sénateur François-Noël Buffet comme défenseur des droits. Cette nomination est soumise à la validation du Parlement aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui a refusé de voter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution peut occuper ce poste de défenseur
des droits?
Vous
savez, moi, le combat qui a été le mien avec le président de la République pour permettre la constitutionnalisation de la liberté d'accès à l'IVG, il sera auditionné aujourd'hui, il l'a été à l'Assemblée, il le sera au Sénat. C'est les parlementaires qui choisissent, c'est les parlementaires qui ont le dernier mot. Ce que je sais, c'est que le défenseur des droits, c'était clair et donc jusque-là, c'est un rôle qui est important et qui dépasse en fait la personne qui est nommée. Ce qui compte, c'est qu'ensuite, la personne qui est choisie, nommée par les parlementaires, se conforme à ce qui est attendu, c'est-à-dire protéger les droits et protéger les libertés dans un mouvement où on le voit, on a des discriminations qui persistent.
Vous lui auriez donné votre feu vert comme député ?
Oui, parce que le sujet, c'est est-ce qu'on est en capacité à exercer en toute indépendance ensuite cette fonction-là, qui est une fonction importante sur la question du respect des droits humains, respect de la dignité humaine, lutte contre toutes les formes de discrimination dans un moment, on le sait et on le voit, où il y a encore des discriminations qui persistent à l'embauche, au logement. Et donc c'est ça qui compte, c'est qu'ensuite cette fonction elle soit exercée dans la plus grande des indépendances.
Merci Aurore Berger d'être venue ce matin sur RMC, RMC Story, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup. Merci. 7h50 dans un instant, le portrait du jour avec Victor Pourchet.
Eh bien justement, on va parler de François-Noël Buffet, l'homme qui va bientôt devoir défendre des droits qu'il a combattus toute sa vie.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h52, c'est l'heure du bonus RMC avec Charlène Villemer. Et ce matin, on parle du retour de Stevie Wonder.
Oui, le retour, un retour en grande pompe avec un nouvel album et puis une série de concerts pendant que la planète foot vibrait pour le sacre de la Loja. C'était samedi à Los Angeles au festival Grande Performance, une soirée organisée en son honneur. À 76 ans, l'artiste aveugle depuis sa naissance déborde d'énergie, des concerts à venir pour fêter les 50 ans de son album culte, Songs in the Key of Life. Le nouveau projet, lui, est attendu l'année prochaine. Pas de date pour l'instant pour les concerts annoncés, mais ça devrait arriver d'ici la fin de l'année.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h53 et c'est l'heure de dresser le portrait du jour avec Victor Pourchet. Aujourd'hui, on en parlait à l'instant avec Aurore Berger, on évoquait le probable futur défenseur des droits. Il s'appelle François-Noël Buffet et son profil fait polémique.
Et ça vous dit sûrement quelque chose si vous avez suivi le multiplex des remaniements il y a quelques mois. Ministre chargé des Outre-mer sous Michel Barnier, ça a duré 3 mois. Ministre auprès du ministre de l'Intérieur sous François Bayrou, 9 mois cette fois-ci, François-Noël Buffet. C'est surtout 20 ans en tant que sénateur LR du Rhône. Un gaulliste social, comme il se décrit, un homme de dialogue, rabâche ses soutiens, une figure de la droite dure, rétorque ses détracteurs. C'est en tout cas lui qu'Emmanuel Macron veut nommer à la tête de l'institution qui s'assure que l'État applique bien à tous les droits garantis par la loi.
Et ça, certains pensent que François-Noël Buffet ne saura pas le faire.
Alors, certains, ce sont des dizaines d'associations, du SIDAction en passant par Maison du Monde et France Handicap. Certains, c'est 150 000 personnes qui ont signé une pétition pour annuler sa nomination. Et certains, ce sont tous les députés de gauche à l'unisson.
Pourquoi cette levée de bouclier ?
Eh bien, parce qu'à son probable futur poste, François-Noël Buffet va devoir protéger des droits qu'il a combattus toute sa carrière politique. Le mariage pour tous, il était contre. La PMA étendue à toutes les femmes, il était contre. L'IVG inscrite dans la Constitution, alors il n'était pas contre, mais il fait partie des 50 abstentionnistes face à 780 votes pour. On pourrait citer aussi son soutien au texte pour instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Texte dénoncé, figurez-vous, par l'actuel défenseur des droits. Alors François-Noël Buffet, en audition devant les parlementaires, a dit valider sa validation. Lui a dit avoir évolué. C'est à vous de juger de la bonne volonté de François-Noël Buffet.
Et on saura aujourd'hui si sa nomination est validée. Merci Victor. Allez, on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
Nouveau rendez-vous cet été, on parcourt la France avec les reporters RMC à la rencontre de vos maires, les maires élus ou réélus au mois de mars au moment des municipales. Ce matin, nous sommes à Allonne dans la Sarthe, 11 000 habitants dont le tiers sont des jeunes et la jeunesse fait partie des priorités du nouveau maire communiste Gilles Leproust qui a prévu un budget, 800 000 euros pour leur proposer de nombreuses activités cet été. Amélie Courtet.
Alors du coup là, c'est une partie des séjours qu'on propose cet été.
Dans le local du service jeunesse de la mairie d'Allonne, plusieurs grandes affiches punaisées au mur, des excursions à la montagne, la mer.
Et notre séjour aussi foot, et on a un stage basket.
Plus de 200 jeunes entre 6 et 17 ans vont ainsi pouvoir voyager. Personne n'est refusé, s'engage le maire Gilles Leproust.
Comme toutes les villes populaires et les villes ayant des quartiers prioritaires, nous avons la caractéristique d'avoir beaucoup de jeunes. Et donc, pour la période estivale, et cela depuis maintenant des années, nous créons les conditions que le droit aux vacances pour toutes et tous devienne réalité.
L'un des premiers à en profiter, c'est Christ Emmanuel, 16 ans, de toutes les colos ou presque.
Ah oui, il faut se battre pour avoir les places. Ah oui, les places sont chères. C'est connu pour avoir une très longue file d'attente des 5 heures.
Mais 5 heures du matin.
Dès 5 heures du matin, il y en a qui campent parce que ce sont des colos à bas prix dans toute la France.
Des prix calculés en fonction du quotient familial, entre 3 et 15 euros par jour maximum.
Là, je pars à La Rochelle, on est une quinzaine. Tu pars à l'aventure, tu découvres des trucs, un groupe, et c'est super.
C'est très, très convivial.
Parfois, les enfants, ils pleurent pour aller partir en colo. Puis quand ils reviennent, ils pleurent parce qu'ils laissent leur animateur. Quand on a fait ça, on a gagné. C'est un vrai plaisir. Il est d'autant plus fort que nous sommes dans une ville où un grand nombre de personnes ne partent pas en vacances, y compris les moules.
Leur donner donc la possibilité de partir.
Hey, t'as fait les colos, toi ?
Et pour ceux qui restent, comme Djibril, Mehdi, 18 ans.
T'as fait les colos, Alan, ou pas ?
Des activités sur place, souvent gratuites.
Ça permet de passer une après-midi, une journée à faire autre chose qu'être chez soi ou dehors.
Et même comme ça nous permet de nous connaître entre nous.
Moi, je sais que même si je partais pas l'été, je passais quand même un excellent été ici. Je garde que des bons souvenirs. Le meilleur pâtissier, on avait fait ça ensemble et c'était catastrophique. On avait fait un gâteau. Mais à l'intérieur, c'était pas cuit, c'était cuit qu'à l'extérieur.
Il manquait de l'expérience, mais. Ça,
pas
ça
le talent de nos mamans.
Et toi, si t'étais maire, est-ce qu'il y a encore des choses que t'améliorerais là-dessus pour les jeunes ?
C'est toi, t'améliorerais des trucs, toi ?
Non, moi, j'ai dit que le maire, il avait fait tellement de choses que.
Non, franchement, merci au maire, c'est un boss.
Ouais. Merci, Gilles Leproust.
Et le maire n'a de toute façon pas l'intention de se relâcher au programme cet été.
Tous les samedis soirs, ou soirée cinéma,
ou soirée théâtre,
précédé par karaoké, dans la journée.
Du sport, paddle, équitation, danse, roller.
Sortie culturelle, la piscine est à 1 euro.
Et à la fin de l'été, un concert pour la paix.
1 euro.
Et vous, vous donnez pas de la voix, monsieur le maire ?
Non, je suis un piètre chanteur et je veux pas qu'il pleuve. Puis sincèrement, fier des jeunes de la ville d'Allonne. Et le aller vers est déterminant. On réussit quand on part des jeunes et quand on leur donne les clés du camion.
Malgré tout, il reste des jeunes que la mairie n'arrive pas à atteindre. Ce sont les invisibles.
Et demain, on continue notre tour de France des maires. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une la loi d'urgence agricole adoptée hier soir. La météo, bien sûr. Emmanuel Le Chypre pour l'économie.
Jamais les canicules n'auront coûté si cher à l'économie française.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très bon début de journée. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Du remous après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi d'urgence agricole. C'était hier dans la soirée. Tension dans le bloc central, tension au sein du gouvernement, vous allez tout entendre. En attendant ce soir au Sénat, le vote et sans doute l'adoption définitive de ce texte. Un nouvel incendie, et on va en parler cette fois en Vendée. 2000 vacanciers évacués à un camping. Hier soir, on va vous raconter ce qui s'est passé. Et on sera aussi dans le journal en Haute-Savoie, d'où repartira le Tour de France aujourd'hui, en pleine polémique sur les contrôles antidopage réalisés en pleine nuit durant le week-end.
Le projet de loi d'urgence agricole est désormais entre les mains des sénateurs.
Alors ce texte promis par le gouvernement et qui fait tant débat, hein, même entre les agriculteurs, on l'entend depuis ce matin sur RMC, il a donc été voté dans la soirée à l'Assemblée, 296 voix pour, 224 voix contre, au terme d'une soirée qui a été complètement électrique, puisque le gouvernement a ouvertement été critiqué par des députés du bloc central. C'est la question du stockage de l'eau et la réintroduction de deux pesticides, hein, qui est ouvertement contestée. Romain Cluzel, du service politique à RMC. La prochaine étape, c'est donc dès aujourd'hui, le vote au Sénat, et si vote il y a, le texte sera définitivement adopté.
Et ce vote des sénateurs, il ne fait aucun doute parce que de nombreuses mesures qui ont fait débat à l'Assemblée ont été introduites par le Sénat. C'est le cas par exemple de l'acétamipride, cet insecticide très controversé, défendu mordicus par le sénateur LR Laurent Duplomb. Les sénateurs sont également à l'origine de plusieurs mesures sur la gestion locale de l'eau et l'influence plus grande des agriculteurs sur cette gestion. Pour autant, même si les sénateurs valident ce texte, il devra passer par le filtre du Conseil constitutionnel. Plusieurs groupes de gauche ont déjà prévu de saisir l'instance. Et puis un conseiller ministériel s'inquiète déjà de la réaction de l'opinion publique avec le retour de l'acétamipride.
Oui, c'est le fameux insecticide qualifié de tueur d'abeilles qui provoque des remous au sein même du gouvernement. Je vous le disais, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, y était opposée. Pas celle de l'agriculture, Annie Genevard, qui salue le vote des députés dans un message ce matin sur ses réseaux sociaux.
Alors, est-ce que c'est une victoire pour les agriculteurs ou une catastrophe écologique? On en vous attend au 32-16 si vous êtes agriculteur. Notamment, vous venez témoigner. 32-16, le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Ça tombe mal, hein, en plein été, les prix des carburants repartent et repartent fortement à la hausse.
Et c'est évidemment lié à la situation au Moyen-Orient où États-Unis et Iran ont à nouveau mené des frappes durant la nuit. Le gazole a pris 14 centimes en une semaine. Le sans-plomb lui a pris 9 centimes et repasse la barre symbolique des 2 euros le litre, hein, selon les chiffres du site internet carbu.com. Alors dans ce sens-là, la répercussion est immédiate à la pompe, avec des incidents sur la route des vacances, nous dit Tiffaine Dubuard.
Dans cette station d'autoroute, le prix du gasoil atteint même les 2,30 euros le litre, une hausse à laquelle ne s'attendait pas Alex, automobiliste.
Le prix est assez exorbitant quand même. On s'est dit, ça y est, ça redescend, ça va durer un petit moment, ça réaugmente et on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Les gros rouleurs doivent donc s'adapter, c'est le cas de Bénédicte. Elle utilise quotidiennement sa voiture.
Tant pis, je vais faire des petits pleins plus fréquemment dès que je me déplace en station-service. Ça doit être à 90 euros le plein, je peux pas. C'est pas possible.
Pour partir en vacances, cette responsable en ressources humaines avait prévu de parcourir 700 km. Mais avec l'augmentation du budget essence, elle n'exclut pas de chambouler toute son organisation.
Si on peut s'arranger pour emmener les enfants avant, ben on le fait en transport en commun plutôt en train. Mais sinon, ça fait deux allers-retours, c'est ingérable au niveau du prix.
Avec les prix actuels du gasoil, son aller-retour Paris-Toulouse pourrait ainsi lui coûter jusqu'à 250 euros.
Alors ça aussi, c'est le feuilleton de l'été rythmé par les incendies. Et hier soir, c'est le département de la Vendée sur la côte atlantique qui en a fait les frais. 2000 personnes donc évacuées d'un camping au Sable d'Olonne en raison d'un feu de végétation. Lucas Lebert, vous avez des précisions?
Oui, le feu a démarré au bord d'une route départementale dans une zone de végétation très sèche et poussée par un vent fort. Il a progressé très vite en direction d'un grand camping 5 étoiles et la menace a été prise très au sérieux, explique le colonel Martin Boutier, directeur départemental adjoint des pompiers de Vendée.
très rapidement, le camping a été sous les fumées, ce qui a nécessairement inquiété un petit peu la population qui se trouvait dans ce camping. Il y a 2200 personnes qui se trouvaient dans le camping. Nous avons décidé de l'évacuation des 2200 personnes du camping de manière préventive. Nous les avons dirigées vers une salle communale pour qu'ils puissent être en sécurité, donc à proximité du camping, le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers.
C'est grâce à l'intervention de plus de 120 pompiers à plusieurs largages, dont un avion Dash, que le feu a pu être fixé peu avant 22h hier soir. Les occupants du camping ont été autorisés à revenir sur place. Au total, 13 hectares ont été brûlés, mais heureusement, aucun dégât majeur, seulement de la végétation.
Alors, je précise qu'il y a 5 départements qui sont au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie, des départements près de la Méditerranée, notamment le Var, où le feu de Draguignan, qui a ravagé 200 hectares un dimanche, est désormais fixé depuis hier soir. Un autre feu ravage en ce moment la montagne dans les Hautes-Alpes, dans une zone escarpée au sud de Briançon. Un hameau a été évacué de façon préventive et 50 hectares de forêt ont déjà brûlé.
Et voici une autre conséquence des canicules à répétition. On manque de fruits de mer sur les étals.
Et pourquoi ? Parce que les températures de l'eau explosent avec les canicules. On parle de canicules marines jusqu'à 29 degrés pour la mer en Méditerranée. C'est bien plus que la normale. Le constat est le même sur la côte atlantique et dans la Manche. Comme ici dans la baie de Saint-Brieuc où les producteurs de moules disent déjà à notre correspondant Martin Lange et bien que leurs rendements sont divisés par 4 cet été.
Depuis plus d'un mois, Guillaume Hurtaud a débuté sa récolte sur les bouchots, ces pieux en bois sur lesquels grandissent les moules. Mais la production n'est pas au rendez-vous.
Il manque des moules en fait. Quand on pêche une branche de 100 mètres et notre référence, sur une année normale, je fais 20 bacs de moules. Là, j'en fais 8 ou 9. Quand on les lave, en plus, elles sont toutes petites.
Une situation inédite qui met en danger l'entreprise familiale.
Je suis en moyenne 200-250 tonnes. Cette année, je vais peut-être sortir 50-70 tonnes. On va tenir l'année, mais il faudrait que l'année prochaine soit une bonne année. Et ça, on n'en sait strictement rien.
En cause notamment le plancton qui se raréfie, encore des prédateurs comme les araignées de mer qui arrivent de plus en plus tôt. Des bouleversements qui pourraient être liés à la hausse de la température de l'eau. Anthony Juin est le président du syndicat mythylicole de la baie.
La pompe là en ce moment à 24 degrés, donc on a bien 2-3 mois d'avance. Oui, forcément il y a un impact sur la façon de se nourrir, sur la nourriture elle-même pour la moule. Nous, quand il fait très chaud, on n'a pas envie de manger. Je pense qu'elles, c'est pareil. Elles ne vont pas grossir. Le tout additionné fait une saison catastrophique.
D'autres zones de production sont aussi touchées. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'AOP moule de Bouchot, qui représente 20% de la production française, n'a pas encore débuté sa saison, faute de moules suffisamment grosses.
C'est au bord du lac Léman que le Tour de France reprend aujourd'hui, au lendemain de la journée de repos. Ça repart avec un contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains, avec une montée de 9 km pour commencer, puis une descente qui est décrite comme dangereuse. Un parcours qui convient normalement au prodige français Paul Sexas, à l'aise en contre-la-montre, et qui est ce matin à une trentaine de secondes du podium au classement général. Ça reprend donc sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez bien, qui a abandonné après une chute dimanche au niveau d'un rond-point. Chute qui fait beaucoup parler depuis, parce qu'il avait été réveillé la nuit précédant l'étape par un contrôle antidopage en pleine nuit. Pareil pour le maillot jaune Tadej Pogacar. L'agence qui mène les contrôles se justifie. Et alors, elle explique, Clément Brossard pour RMC, que si elle mène des contrôles en pleine nuit, c'est pas pour rien. Et surtout, elle en a le droit.
Oui, un tel test n'est pas anodin, nous fait savoir l'Agence internationale du contrôle. Afin d'effectuer cette opération à une heure si tardive et la rendre légale, l'agence a dû la faire valider par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, juge qui ne donne son aval qu'en cas de risque de soupçon grave, de dopage imminent ou de disparition de preuves. Ce contrôle nocturne a surpris l'ensemble du peloton, un peloton inquiet de savoir qu'il peut être contrôlé en pleine nuit, perturbant ainsi son sommeil au cœur d'une compétition si énergivore qui a vu Jonas Vingegaard abandonné suite à une chute au lendemain de ce contrôle. Si la situation suscite forcément le doute, l'agence de contrôle international a expliqué à RMC hier soir qu'il ne fallait pas interpréter ce test comme l'assurance d'une violation des règles antidopage.
Bon, on vivra ça cet après-midi, ce contre-la-montre sur RMC dans l'intégral tour. Et ça, c'est l'image de la soirée. Vous allez forcément l'avoir passée aujourd'hui, celle de la foule monstrueuse hier soir à Madrid, en Espagne, pour le retour des champions du monde espagnol. Avec une parade, puis une cérémonie, écoutez.
Nous sommes les champions du monde. Vive le roi et vive l'Espagne.
Alors la presse, c'était Rodri, le milieu de terrain, meilleur joueur du tournoi que vous entendiez. La presse espagnole parle de 2 millions de personnes dans les rues de la capitale Madrid. C'est énorme pour Madrid qui compte 3,5 millions d'habitants, un peu plus de 6 millions si on comprend la banlieue. Ça fait une personne sur trois, grosso modo, qui assistait à cette cérémonie donc de sacre pour célébrer les champions du monde. En parallèle, je vous signale que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire sur les incidents qu'on a pu voir dimanche en fin de match après la finale, impliquant notamment l'Argentin Leandro Paredes, qui avait agressé deux joueurs espagnols après le coup de sifflet final.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC. Il est 8h10 et vous continuez de réagir sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Victor, on lit tous les messages avec beaucoup de réactions ce matin sur la perspective d'une éventuelle vaccination obligatoire des soignants contre la grippe.
Oui, et on a d'abord Christian qui nous dit que c'est une très bonne idée, selon lui, de devoir obligatoirement être vacciné pour ces professionnels de santé. La vaccination pour ces gens qui la refusent est assez suspecte. Je n'irai pas voir un soignant qui ne se vaccine pas et qui serait amené à me soigner. On a aussi des messages sur cette loi d'urgence agricole votée et cette réintroduction de certains pesticides. On a par exemple Jean-François qui nous dit « Le monde agricole a besoin de payer ses factures, a tellement besoin de payer ses factures qu'il est prêt à utiliser des produits potentiellement dangereux et à mettre en œuvre des politiques de gestion de l'eau à la va-vite. C'est de la politique agricole à la petite semaine. » Voilà, très peu de gens convaincus dans les messages, notamment Yannick, par cette réintroduction des deux pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe.
Sur WhatsApp, vous nous écrivez au 06 12 424 424 par téléphone, c'est le 3216. Vous connaissez le chemin et vous avez la parole pour réagir à tous les sujets d'actualité sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chypre. On va parler du coût de la canicule qui pèse déjà sur notre croissance. Et puis, le Sénat qui a enterré son propre rapport sur le burn-out. 200 pages, 5 mois de travail, 39 recommandations jamais publiées. Restez dans un tiroir. Bonjour Christelle Mazza.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit de la fonction publique, en droit pénal au travail. Pour vous, c'est une censure, tout simplement, de la réalité de la souffrance des Français au travail. C'est votre parti pris. On en parle dans un instant et ça vous fait réagir. 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15, merci d'être avec nous ce matin sur RMC et sur RMC Story. C'est Apolline Matin qui continue, on parle du burn-out, la souffrance au travail. C'est une crise sanitaire cachée, voilà ce qu'était la conclusion d'un rapport de 200 pages rédigé par des sénateurs après 5 mois d'enquête et d'audition. Sauf que ce rapport a terminé à la poubelle avec ses 39 recommandations. Début juillet, les sénateurs ont tout simplement voté contre sa publication. Bonjour Christelle Mazza.
Bonjour.
Vous êtes donc avocate en droit de la fonction publique, en droit pénal au travail. Vous aviez été vous-même auditionnée dans le cadre de cette mission d'information menée par les sénateurs. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que c'est une forme de censure de la réalité de la souffrance des Français au travail. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce terme utilisé par les sénateurs. C'est une réelle crise sanitaire.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord à la fois avec le terme de crise sanitaire et de censure pour ce qui concerne ce rapport, oui.
Pourquoi crise sanitaire ?
Crise sanitaire parce que les taux de souffrance au travail pour les informations qu'on peut avoir, parce qu'évidemment il y a une invisibilisation générale dans le travail public et privé, montrent un taux d'épuisement professionnel extrêmement alarmant, avec de très nombreux aussi passages à l'acte, des compensations psychiques graves. L'OMS d'ailleurs parle d'un chiffre de 1,37% du PIB. Au-delà d'une crise sanitaire, c'est un phénomène social et politique qui appartient au débat public et qui ne doit en aucun cas être à ce point invisibilisé. Je voudrais rajouter d'ailleurs que finalement, avec beaucoup de cynisme, le fait de vouloir cacher ces informations permet aux citoyennes et citoyens français de comprendre à quel point le travail est un objet politique et appartient à notre débat collectif.
Alors, on n'a donc pas la totalité du rapport, mais certaines de ces conclusions ont fuité. On sait que dans les conclusions, le rapport pointait la dégradation, ce que vous dites, la dégradation d'un ensemble de facteurs liés à l'environnement au travail, les pratiques managériales, les réorganisations permanentes, et pointait aussi que tous les secteurs, en réalité, sont touchés. Ça veut dire quoi ? C'est du cadre supérieur jusqu'à l'ouvrier. En fait, il n'y a pas vraiment de... la souffrance au travail, elle est partout.
Oui, et ça c'est très important de le souligner parce que le discours presque de propagande politique pour masquer quelque chose de majeur là qui est à l'œuvre, c'est de dire que finalement ce sont les plus vulnérables du travail qui craquent. Est-ce que c'est à nous de payer pour ces personnes qui ne tiennent pas la cadence ? Or, ce que l'on constate, c'est totalement faux. C'est qu'on a une souffrance majeure, une vraie crise auprès des cadres, des chefs d'entreprise, petites, moyennes, même grandes entreprises. Ça touche absolument toutes les catégories sociales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la décorrélation qu'il y a entre l'économie, c'est-à-dire la rémunération, et le sens au travail, c'est-à-dire l'engagement émotionnel et même psychique qu'on va mettre au travail. Donc, ce n'est pas une question d'argent, on va en faire une simple question économique. C'est une vraie question politique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, parce que continuer d'invisibiliser ces questions, le système craque, y compris les personnes, et on se retrouve avec un scandale que manifestement, une certaine politique veut invisibiliser. Et j'irai même plus loin, c'est que deux jours après le refus de publication de ce rapport, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé 4 experts technocrates pour réfléchir sur notre modèle social. C'est-à-dire, en pleine campagne présidentielle, puisque le rapport doit être remis en décembre, on aura une appropriation de ce débat qui appartient au peuple, qui doit être débattu au Sénat, à l'Assemblée nationale, et même en dehors, et c'est à l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire une grande partie des Françaises et des Français, de débattre de ces sujets qui ne doivent pas être monopolisés.
Certains des sénateurs qui ont expliqué leur vote de rejet de ce rapport en expliquant que ce rapport était trop orienté, ne donnait pas suffisamment la place aux employeurs. Vous vous dites qu'il y a une réelle volonté de masquer les choses. Comment vous comprenez cette frilosité ?
Écoutez, c'est un argument extrêmement grossier. C'est des gens qui n'ont probablement pas lu le rapport ni entendu les auditions. Il y a absolument l'intégralité des représentants du travail, que ce soit employeurs, salariés et même fonction publique. Et ça, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que c'est vrai que la fonction publique est littéralement invisibilisée dans le débat. Et là, il y a eu un vrai effort de compréhension sur ce qui se passe dans le secteur public. Tout le monde a été entendu. On veut en faire quelque chose de basiquement idéologique, là où il y a un sujet qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire que cette souffrance au travail est un sujet qui rassemble. Interrogez n'importe qui dans un dîner autour de vous. Il y a énormément de gens qui souffrent au travail, quelle que soit, encore une fois, la catégorie socio-professionnelle.
Les sénateurs dans ce rapport demandaient à ce que l'épuisement et les souffrances psychiques soient reconnus comme maladies professionnelles. Ça n'est pas le cas aujourd'hui ?
Alors, ça, ça fait partie justement du débat politique qu'il faut avoir à ce sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de catégorie spécifique qui attribue, par exemple, le burn-out ou l'épuisement professionnel à une maladie psychique. On peut le reconnaître, et ça se fait un peu au cas par cas, devant les organismes sociaux publics ou privés. Et en fait, ce qui est important, et ça, je comprends parfaitement la démarche, c'est de mettre des mots sur les choses dans les catégories de maladies professionnelles possibles. À partir du moment où vous nommez les choses, vous comprenez que le phénomène existe. Cette invisibilisation, elle est problématique parce qu'on essaye encore une fois de faire croire que le burn-out, ça n'existe pas ou que c'est lié à la fragilité, vulnérabilité de la personne. Or, c'est un phénomène structurel.
Merci beaucoup. Une forme de censure, voilà votre parti pris ce matin après le rejet de ce rapport sénatorial qui donc n'a pas été publié, rapport sur le burn-out et la souffrance au travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Christelle Mazza, avocate en droit de la fonction publique et en droit pénal au travail. Merci beaucoup. Il est 8h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est l'heure de l'économie avec Manu Le Chypre. Manu, combien les canicules vont-elles nous coûter et vont-elles coûter à la croissance ?
Plus que jamais. La France a déjà essuyé 3 épisodes caniculaires depuis le début de l'année, soit une trentaine de jours. Songez qu'en 2023, en août 2023, la canicule avait duré 16 jours seulement et avait amputé la croissance de 0,2 points sur l'année. Alors, certes, on a déjà revu en baisse la croissance pour 2026. Bercy nous dit que ce sera 0,7 et pas 0,9. L'INSEE nous dit aussi 0,7. Mais ça, c'était en grande partie avant les dernières fortes chaleurs. Et donc, il faut s'attendre sans doute à de nouvelles révisions à la baisse. Les experts d'Allianz nous disent que le coût de ces canicules sera au moins de 0,3 points de PIB. Ça fait une dizaine de milliards d'euros. Ce serait la période caniculaire la plus coûteuse donc de l'histoire. Surtout qu'il faut rappeler qu'en 2003, la canicule, elle était intervenue en août, qui est un mois d'activité faible, alors que là, on a eu canicule en mai, en juin et en juillet. Alors, on connaît les effets sur les entreprises. Production perturbée par la chaleur, avec des pannes, voire des incendies. Des salariés moins efficaces, des transports perturbés, que ce soit le train, les pannes de voitures, le trafic aérien. On connaît aussi les effets sur la consommation, moins d'achats de vêtements, de produits alimentaires, moins de restaurants. La hausse de la production d'électricité et la fréquentation des cinémas ou des centres commerciaux ne compensent pas ces effets négatifs.
Et la grande inconnue, c'est l'agriculture.
Absolument. En 2003, l'agriculture et la sylviculture avaient été fortement affectées, avec des baisses de rendement allant de 20 à 30% pour les grandes cultures céréalières. Là, les fortes chaleurs de 2025, paradoxalement, avaient eu moins d'impact, sauf pour la viticulture. La fréquence et la durée des canicules provoqueront cette année sans doute beaucoup plus de dégâts que l'an dernier. Rexecode calcule qu'une baisse de 10% de l'activité agricole cette année coûterait à elle seule jusqu'à 0,2 points de croissance. Pour ça, on aura la réponse à l'automne. L'autre mauvaise nouvelle qu'on a dès maintenant, c'est que dans toutes les prévisions que je vous ai citées, on tablait sur une fin rapide du conflit au Moyen-Orient et retour des prix du pétrole à un niveau raisonnable. Et ben, manifestement, il va falloir s'habituer encore pas mal de semaines, voire de mois, à vivre avec un pétrole cher.
Oui, parce qu'on l'a vu hein, cette nuit, hein, ça se tend à nouveau au Moyen-Orient. On termine avec notre point quotidien sur justement les prix de l'énergie qui ne sont pas bons. Hein.
Alors, le gazole, 2,14€ le litre hier, c'est 14 centimes de hausse en une semaine. Sur le samplon 95, la hausse est moins forte, 2,02€ le litre, 5 centimes de hausse en une semaine. Le pétrole est stable depuis 2-3 jours à $89 le baril, mais ce qu'on n'a pas assez dit et ce qui inquiète le plus, c'est la flambée du gaz. Le gaz, on est remonté à 57€ le mégawattheure. On était à 40€ fin juin. On a pris presque 20€. C'est un record depuis le 23 mars. La hausse du gaz, au moment où on commence à reconstituer les stocks dans les pays de l'hémisphère nord, c'est vraiment, vraiment ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours.
Et on va continuer, bien sûr, de le surveiller, vous le savez, sur RMC. Merci Manu. Allez, après ces mauvaises nouvelles, on va se détendre un peu. On vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche.
Ah, il fait chaud, Apolline, Victor, Géraldine, Élise, j'ai chaud. Tout le monde a chaud. Apo, faut que vous invitiez Maud Bréjon, de toute urgence, la porte-parole du gouvernement, histoire qu'elle brasse de l'air, comme d'habitude, et dans nos locaux.
Le gouvernement est pleinement mobilisé, hein, et nos concitoyens, en conscience,
Oh, ça fait du bien. Continue, Maud. Bon courage au pauvre gars de la météo sur BFM TV, parce que nous, on a Géraldine Demory, mais on est sympa avec elle, on la laisse au frais, dans le bureau, dans la clim, alors que sur BFM, c'est des sadiques. Guillaume Fleury, vous êtes en exclusivité sur le toit de la Tour Montparnasse où on a retrouvé des pointes à 54 degrés parce qu'il n'y a pas d'ombre et que c'est du zinc. Alors quel temps fait-il ? Il fait chaud. D'accord, eh bien on refera un point dans une heure pour savoir s'il fait toujours chaud. Restez bien là-haut. Et je peux faire la météo en plateau si vous voulez. Alors la direction me dit dans l'oreillette, non, ce sera moins rigolo. Demain, vous irez étudier peut-être les conditions de travail dans les hauts fourneaux à Florange. Mais il va faire super chaud. Bah vous nous direz, hein, nous on sait pas, c'est vous la météo.
D'ailleurs, l'Iran empêche toujours les navires américains de traverser le détroit d'Ormuz, le temps a changé.
C'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué. Eh ouais.
Et voilà.
Quelle histoire là-bas alors, hein, ça n'en finit pas, va falloir tenir jusqu'à juin avec des vannes sur le détroit qui est bouché. D'ailleurs, j'ai lu un article épouvantable, Apolline, affreux, terrible. Savez-vous, Apolline, qu'une cargaison de coucougnettes est bloquée dans le détroit d'Ormuz? Et oui, c'est absolument authentique, c'est vrai. Alors c'est quoi les coucougnettes? Oui, c'est une confiserie, une spécialité de peau. Et c'est un palace de Dubaï qui a commandé 15 palettes de coucougnettes pour les offrir aux invités. Alors, le PDG de la confiserie, Christian Coucougnette.
C'est
le fils de Gilbert Coucougnette, le fondateur. Il n'est pas content, il a dit « Un pays étranger nous demande nos coucougnettes sur un plateau et on n'est pas capable de leur donner. » Alors que le Quai d'Orsay fait quand même ça tous les jours. Et c'est l'occasion d'un petit quiz très rigolo. Cette spécialité culinaire française et rigolote existe-t-elle?
Attention, la beauté de nos régions.
Coucougnette, pas coucougnette. Le fion vendéen.
Oui,
c'est un flan. Le panifou de Provence, un fromage de nos régions.
C'est un mini.
Le trou du cru, un fromage de nos régions.
Oui, il existe.
Les vieux croûtons du Luxembourg.
Non.
Si, ça existe, c'est le Sénat.
Ça sent un peu
le vieux fromage affiné quand même. Les zézettes de Sète.
Oui,
ça existe. Le zizi du Bruel.
Non.
Les glaviots de Clermont-Ferrand. Alors, c'est comme les huîtres, mais ils n'ont pas la mer.
Non, ça
n'existe pas. Les nombrils de moine.
C'est
une sorte de macaron et ça existe. Bah ouais. Les tétons de la reine Margot.
Non.
Si, ça existe.
Ah bon,
c'est des chocolats.
Ah oui. D'accord, j'aime.
Les tétines du Bourbon des Deux Siciles et des Trois Fromages.
Non.
Les croûtes de lépreux du Beaujolais.
Non.
Alors, c'est des tuiles au vin.
Ah bon?
Non, ça existait pas. Non, je déconne. Mais j'ai quand même déposé le brevet.
Niveau marketing, moi, je la vendrai pas comme ça.
Non, mais j'ai déposé le brevet. On va en cuisiner avec Victor Pourchet. On va essayer. On vous en amènera lundi prochain. Bon appétit. Bon petit déjeuner.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. 8h27. Dans un instant, la météo et un nouveau journal avec à la une cette soirée électrique à l'Assemblée nationale sur le vote de la loi agricole. Et puis je vous attends au 32-16 sur ce sujet agricole, sur le manque de saisonniers aussi dans l'hôtellerie, dans la restauration. Est-ce qu'on se donne les moyens de bien accueillir les saisonniers? On avait tout à l'heure un auditeur qui nous disait moi je ne cherche même plus à travailler l'été, ça n'est pas assez bien payé. Qu'en pensez-vous? Vous êtes professionnel, vous êtes saisonnier, vous venez témoigner au 32-16 et ce sera le choix de la rédaction. Et puis ça fait débat, le RN qui promet d'interdire le voile dans l'espace public par référendum si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Est-ce un retour aux fondamentaux pour le RN? Et puis surtout, juridiquement, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est constitutionnel d'interdire le voile partout dans l'espace public? On en parlera avec le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel à 8h40 et là aussi, vous intervenez au 32-16. A tout de suite. RMC 8h30.
RMC Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La loi d'urgence agricole qui prévoit la réintroduction de deux pesticides controversés adoptés par les députés. Un vote qui a créé des tensions au sein du bloc central. C'est une piste sérieusement étudiée par le gouvernement, rendre la vaccination contre la grippe obligatoire pour tous les enseignants. Le ministère de la Santé étudie les conditions de sa mise en œuvre. Les Français vont-ils enfin briller sur la grande boucle? Début de la troisième semaine de course aujourd'hui et toujours aucune victoire tricolore.
La loi d'urgence agricole a donc franchi une étape décisive.
Un texte adopté cette nuit par les députés avec une mesure polémique, la réintroduction dérogatoire de deux pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe. Un vote sous tension à l'Assemblée nationale qui a également créé des divisions au sein du bloc central, Romain Cluzel.
Soupir de soulagement pour Jean-René Cazeneuve après le vote favorable hier soir. Le député Renaissance le rappelle, l'acétamipride ne sera autorisé que sur avis de l'autorité de sécurité sanitaire.
En aucune manière, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les réintroduire. On donne simplement le dernier mot à l'inceste.
Pourtant, son collègue du même groupe, Éric Botorel, a voté contre le texte. Il refuse tout retour de cet insecticide qui a fait l'objet d'une pétition largement signée l'été dernier.
On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'une mobilisation citoyenne qui aboutisse à plus de 2 millions de signatures, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Si l'acétamipride est de nouveau présente, et a priori ça a l'air de plaire à Mme Genevard, c'est le choix du gouvernement.
L'opposition est encore plus nette à gauche. L'écologiste Benoît Biteau dénonce un texte contre-productif pour les agriculteurs.
Je vous prédis que dans moins de 6 mois, les agriculteurs sont encore dans la rue parce que ce texte-là ne va rien régler, va même continuer de les enfoncer dans une ornière dont ils n'arrivent pas à se sortir.
Et comme les écologistes, les socialistes et les insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptent saisir le Conseil constitutionnel.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se dit très satisfaite de ce vote. Un texte selon elle, qui contient des mesures attendues, concrètes et précises pour les agriculteurs. Le texte doit désormais être examiné aujourd'hui par le Sénat et sera ensuite définitivement adopté.
Autre sujet sensible et qui va sans doute vous faire réagir ce matin au 32-16, la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants.
Le gouvernement ouvre la porte à cette mesure après l'avis favorable des autorités sanitaires. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité sur le terrain. Et Lucas Laubert, le gouvernement étudie les conditions de sa mise en œuvre.
Le ministère de la Santé doit d'abord déterminer d'ici les prochaines semaines qui sera concerné par cette obligation de vaccination contre la grippe, quels soignants et dans quel établissement. Autre question en suspens, comment s'assurer qu'elle soit bien respectée? La concertation sera conduite avec les représentants des professionnels et des étudiants ou encore les fédérations sanitaires, puis tout cela devra faire l'objet d'un décret. Aucune sanction ne sera appliquée la première année d'application, précise le gouvernement. La Haute Autorité de Santé recommande de déployer en priorité cette obligation vaccinale dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée, là où les résidents sont les plus âgés et en contact répété avec les soignants, avant un déploiement progressif dans les autres lieux concernés, les hôpitaux par exemple. Elle rappelle que la grippe a fait près de 12 700 morts l'hiver dernier.
TikTok, Instagram, Snapchat, bientôt interdits aux moins de 15 ans. Le Parlement pourrait adopter aujourd'hui une loi inédite en Europe avec une entrée en vigueur dès la rentrée.
On en vient à la politique et le Rassemblement national qui revient sur son idée d'interdire le voile dans l'espace public.
Le parti de Marine Le Pen veut désormais limiter sa proposition à l'intérieur des bâtiments publics et se dit prêt à un référendum en cas de victoire en 2027. On est loin, Thomas Becker, de la ligne défendue en 2022 qui visait aussi l'espace public.
Oui, d'un côté, il y a la doctrine historique du FN puis du RN de Marine Le Pen. Interdire le port du voile partout, y compris dans la rue. Désormais, le RN imagine un référendum. Il porterait sur une loi plus générale de lutte contre l'islamisme qui comprendrait l'interdiction du port du voile dans les bâtiments publics. Plus d'interdiction pure et simple, parce qu'au sein du parti, la mesure crispe interroge, y compris Jordan Bardella ou la députée Laure Lavalette. C'est répulsif dans l'opinion publique, ajoute un député RN. Pour un autre, c'est clair, le référendum est une manière d'enterrer l'interdiction du voile parce qu'il y a de bonnes chances qu'il ne voit jamais le jour, ajoute ce même député. Référence aux contraintes juridiques qui pourraient empêcher Marine Le Pen, si elle est élue, de poser directement la question aux Français.
Alors, faut-il interdire le voile partout dans l'espace public, symbole de l'islamisme, dit le Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez au 32-16, on vous écoute, on vous lit aussi les messages WhatsApp, c'est sur le 06-12-424-424. On va y revenir après le journal avec notre invité Benjamin Morel. Il est 8h35 et le Louvre rouvre une salle emblématique.
La galerie Apollon, cambriolée en octobre dernier, accueillera demain de nouveau le public. Mais ces vitrines resteront vides, annonce le président du musée dans une interview ce matin au Parisien. Et Marion Gauthier, le Louvre veut en faire sa galerie des glaces.
Oui, une galerie d'apparat, toute d'or et de stuc. Le président du Louvre veut retrouver le palais sous le musée, redonner leur place aux décors muraux, peints et sculptés. Il allait de toute façon manquer quelque chose dans la galerie d'Apollon, lance Christophe Le Ribaud, référence au joyau de la couronne dérobé, pas encore retrouvé, mais il veut y croire. Les autres bijoux, les vases taillés dans des pierres précieuses, tous les objets jusque-là exposés quitteront cette immense salle voûtée pour une chambre forte, sans fenêtres, ultra sécurisée, mais pas encore inventée. Il faut trouver l'endroit et il devra être grand pour accueillir notamment la couronne d'Eugénie, abandonnée par les braqueurs dans leur fuite. Plus célèbre qu'avant, elle devrait attirer les foules. Le président du Louvre espère attirer les mécènes, car le chantier de rénovation, la création de nouvelles salles et d'une entrée, est déjà estimé à 1 milliard d'euros.
La nouvelle menace ce matin de Donald Trump, l'Iran paiera le prix fort pour chaque soldat tué au Moyen-Orient. Son homologue iranien parle d'une guerre totale face aux États-Unis. Cela fait 10 jours de suite que l'armée américaine pilonne Téhéran. Téhéran riposte également.
Le Tour de France reprend la route et on attend toujours une victoire française.
Oui, après une journée de repos, le Tour de France est de retour avec un contre-la-montre de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Et pour cette troisième et dernière semaine de course, on espère tous voir un Français remporter une étape. Diane Carlotti.
Le long des routes du Tour, les supporters français n'attendent que ça.
Allez les Français, on veut une victoire d'étape.
Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Et on veut l'étape.
Ouais, allez les jeunes, on veut l'étape. On veut un Français.
Mais face à l'ogre Pogacar, déjà vainqueur de 4 étapes sur l'édition 2026, difficile d'exister pour Valentin Paré-Peintre et ses compatriotes.
Rien n'est facile au Tour de France, c'est que des champions qui gagnent des étapes. Si on veut faire un bon truc au Tour de France, c'est toujours compliqué, il n'y a rien de gratuit.
L'an passé, les tricolores avaient attendu la 16e étape et la victoire de Valentin Paré-Peintre peintre en haut du Mont Ventoux pour débloquer le compteur de la France. Alors Joris Delbove ne veut rien lâcher jusqu'au bout.
Je pense que la dernière semaine peut être pas mal pour les Français, surtout mercredi, jeudi. Je pense qu'on peut peut-être avoir un Français qui gagne.
Un souhait partagé par Jérôme Pinault, consultant RMC Sport, qui croit notamment en Paul Sexas et Lenny Martinez pour performer.
Plus on va tenter, plus on va y arriver. C'est pas impossible que Paul ou Lenny aillent chercher une étape de montagne. Voilà, on compte sur eux aussi. Il y a de l'avenir, il y a du temps, il y a de l'espoir.
L'espoir d'éviter un Tour de France sans victoire française, une contre-performance qui n'est plus arrivée depuis 1980.
Intégral Tour, c'est dès 14h sur RMC. L'Espagne a accueilli hier ses héros. Hein. Près de 2 millions de personnes ont envahi les rues de Madrid pour célébrer la deuxième étoile et apercevoir Yamal et ses partenaires brandir le trophée de la Coupe du Monde. Autre ambiance en Argentine, des milliers de supporters sous l'appui hier. Et certains joueurs manquaient à l'appel, notamment Messi qui a publié sur son compte Insta sa déception de ne pas avoir décroché cette Coupe du Monde.
Le Quintet, c'est à Vichy à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori est l'As, leur outsider. Et le 3, c'est le Vau.
Clément Gouit pour le journal, il est 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, le choix de la rédaction. Il manque 65 000 saisonniers dans l'hôtellerie et la restauration. En reportage dans un instant. Et puis le Rassemblement National qui veut faire trancher les Français sur l'interdiction du voile. Un référendum en 2027 si Marine Le Pen est élue. Est-ce que c'est légal, crédible? Quelle stratégie politique y a-t-il derrière? On en parle avec le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel. Et avec vous, bien sûr, au 32-16. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du choix de la rédaction avec ce matin Pierre Bourgès. Bonjour Pierre. Vous êtes notre correspondant en Gironde et on parle des saisonniers. Ce matin, il en manque plusieurs dizaines de milliers, 65 000, nous disait notre invité tout à l'heure, cet été, dans les hôtels et dans les restaurants. Manque de main-d'œuvre, situation compliquée pour de nombreux employeurs. D'autres ont pu quand même démarrer leur saison au complet. Problème, certains patrons doivent faire face à des démissions en pleine saison. Illustration à Lacanau avec vous, Pierre Bourgès.
Guillaume pensait démarrer sereinement sa saison en cuisine, mais ça n'a pas duré très longtemps.
Un jeune qui me dit, c'est bon, parfait, on valide la saison après sa période d'essai, etc. On met tout en place, on crée le contrat, on avance, etc. Puis le lendemain matin, même sans me prévenir à moi, il vient juste dire à notre chef cuisinier que finalement, il ne fera pas la saison avec nous, et je ne suis même pas au courant, et c'est la veille de la saison, donc je dois trouver des solutions rapidement.
Scénario similaire dans le restaurant d'à côté. Laurent est responsable de l'assiette à Lacano sur le front de mer. Il a perdu un serveur et un cuisinier depuis début juillet.
Du jour au lendemain, sans prévenir, les gens s'en vont. Maintenant, il y a une démission qui est rapide. Du jour au lendemain, les gens partent sans trop savoir des fois pourquoi.
Le nouveau cuistot est arrivé hier.
Allô, en cuisine ? J'ai une profiterole, s'il vous plaît.
Une situation inédite pour la gérante Agnès Brand.
Et nous, ça fait 4 ans qu'on est installés et c'est vraiment la première année où il y a autant de turnover. Ils ne veulent pas s'investir, donc ils font un mois. Si ça ne leur va pas, ils s'en vont. Alors que je vais faire la vieille, mais avant, c'était vraiment, on s'investissait sur une saison, c'était 6 mois. Et même si c'était dur, on restait. Alors que là, ils s'en vont.
Décision totalement assumée par certains saisonniers comme Mélissa, cette étudiante de 22 ans, a signé un contrat chez McDonald's pour cet été.
J'ai commencé à partir du mois de mai, une fois que j'ai passé mes partiels, et j'étais censée terminer fin août.
Censée seulement, puisque sa lettre de démission est déjà prête, Mélissa partira donc début août.
Je trouve que la charge de travail, elle était trop importante pour moi, pour un job d'été. Après, j'ai déjà reçu mon salaire du mois de mai, du coup, qui n'était pas à la hauteur de mes espérances, on va dire.
À cela s'ajoutent des conditions de travail difficiles, expliquent d'autres saisonniers démissionnaires que j'ai pu rencontrer. Victor, qui travaille sur la plage, pense aussi à rompre son contrat plus tôt pour mieux s'organiser pour l'année prochaine.
Ça m'arrangerait finalement de rentrer plus tôt pour me retrouver dans un cadre assez simple et où je me sens bien. Pour en effet commencer à la recherche d'appartement pour l'année qui arrive et même la recherche de boulot en tant qu'étudiant pour l'année.
Reste à trancher entre démission et abandon de poste. Dans les deux cas, il n'aura pas le droit au chômage.
En reportage de Pierre Bourgès, correspondant RMC à Bordeaux. Anthony est avec nous au 32-16. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Depuis Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. Anthony, vous avez vous-même été longtemps saisonnier, c'est ça ?
J'ai fait des saisons pendant 26 ans et les 10 dernières années en tant que chef de cuisine.
Et quels souvenirs vous en avez ?
C'est-à-dire qu'il y a 15 ans de ça, pour revenir à ce que disait votre correspondatrice à Lacano, c'était vrai, c'est qu'en fait, quand on attaquait une saison, on était une équipe, on était une famille.
Ouais.
On ne se lâchait pas. On bossait 7 sur 7, parce que ça, faut le savoir, c'était du 7 sur 7 pendant 3 ou 4 mois. Et là, les dernières saisons, c'est que les jeunes, ça sort, ça n'embauche pas le matin, enfin, c'est pour assumer.
Ça veut dire que vous acceptiez aussi de travailler 7 jours sur 7, même si ça n'est pas forcément ce que dit le contrat et ce que dit la loi.
Mais ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu, et puis on avait souvent des primes en fin de saison. Pour compenser tout ça, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pour ça, des fois, moi, quand j'entends les 35 heures, ça me fait rire. 35 heures, on le faisait en 3 jours cet été. Hein.
Qu'est-ce qui a changé alors ? Est-ce que c'est les jeunes qui sont moins motivés ? On les a entendus. Ouais. Bon, il faut prendre une petite pause avant de reprendre les études, etc.
Non, c'est même pas ça.
Est-ce qu'ils sont simplement moins motivés parce que les conditions se sont dégradées ?
Alors, je pense qu'il y a tous les deux. Il y a déjà, c'est que les jeunes, ils pensent tous qu'à faire la bringue, qu'à travailler. Donc déjà le soir ils vont se prendre des berles et puis le matin ils viennent pas travailler. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça aussi, moi, je comprends les patrons où après, ben, ils mettent des battes à l'air parce qu'ils savent que les mecs vont pas tenir. En fait, c'est un sac à viser, c'est un engrenage, quoi. Je comprends les patrons qui en ont marre de proposer des gros salaires pour des gens qui vont pas faire le job. Et à côté, ben, il y a des gens comme moi où on demandait des gros salaires parce qu'on connaît le travail. Mais à la fin, quand on arrive à 40, 41 ans, on en a marre, quoi.
Mais sauf qu'on a peut-être un peu plus envie de faire le job si on est mieux payé. Enfin, on peut aussi se dire ça.
Après,
ça fait une carotte quand même.
Il arrive un moment aussi, quand vous prenez de l'âge, vous pouvez plus gonfler des heures comme avant. Enfin, moi, personnellement, j'ai travaillé dans des grosses structures où c'était du 800, 1000 couverts jour. Il y a un moment donné, quand vous n'avez pas le staff avec vous, ça devient compliqué.
Ce sont des métiers, ce sont aussi des métiers difficiles. Hein. Merci beaucoup, Anthony, pour votre témoignage. Anthony, ancien cuisinier, ancien saisonnier. Merci beaucoup pour votre témoignage. 32-16, dans un instant, le Rassemblement National qui veut faire trancher les Français par référendum pour interdire le voile dans l'espace public. Est-ce que c'est possible, légalement? Et puis, quelle est la stratégie politique qu'il y a derrière? On en parle avec Benjamin Morel et avec vous au 32-16 dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes sur RMC et sur RMC Story, il est 8h49. On parle du voile. Faut-il interdire le voile islamique dans l'espace public? Le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu, a annoncé hier un référendum en cas d'élection de Marine Le Pen, estimant que ce voile, c'est un symbole de l'islamisme. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur de Crise politique, crise de régime, c'est chez Odile Jacob. Pourquoi le RN relance ce débat maintenant? Est-ce que c'est le retour aux fondamentaux de l'extrême droite avant la présidentielle?
C'est quelque chose que le RN propose depuis déjà un certain temps. Alors ça crée des tensions en interne du Rassemblement National, cette affaire d'interdiction du voile dans l'espace public. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est une nouveauté, donc ça permet de marquer un petit peu l'actualité au cœur de l'été. L'objectif, évidemment, étant que ça vienne plutôt d'un lieutenant, en l'occurrence de Sébastien Chenu, pour que la candidate ne soit pas non plus engagée par cette proposition qui pourrait éventuellement fâcher une partie de l'électorat qu'elle vise.
Oui, c'est pas elle qui le dit, elle envoie Sébastien Chenu. Est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte peut-être de ballon d'essai?
C'est sans doute un peu un ballon d'essai, puis si jamais Marine Le Pen a besoin d'élargir son électorat en disant que ce n'est finalement pas quelque chose qu'elle reprend à son compte, elle pourra. Et si au contraire elle a besoin de mobiliser sa base qui est plutôt abstentionniste et qui peut répondre à ce genre de stimuli, eh bien à ce moment-là elle pourra assumer cette proposition, donc ça lui laisse une amplitude stratégique, ce qui fait que pour l'instant ça n'engage à rien et que c'est plutôt malin.
C'est vrai que c'était dans le discours du RN depuis longtemps, mais moi, en regardant le programme écrit de Marine Le Pen, que ce soit celui de 2022 ou celui de 2017, j'ai pas retrouvé cette proposition écrite noir sur blanc, et encore moins celle d'un référendum. C'est quand même un pas de plus, là.
C'est un pas de plus, encore une fois, c'est plutôt un ballon d'essai. Donc, il faut également raison garder sur une proposition qui, au milieu de l'été, est annoncée par Sébastien Chenu. Mais en effet, ça ouvre la voie à une question plus large, en fait, où le Rassemblement National propose des référendums sur des sujets qui sont des sujets structurants pour montrer que sur ces sujets, il est capable d'aller assez loin, mais qu'il l'est à condition de demander son avis aux Français.
Restez bien avec nous, Benjamin Morel. On va parler de la faisabilité aussi de la chose. On est d'abord au 32-16 avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue Sandrine sur RMC. Vous nous appelez du Val d'Oise. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'interdire le voile dans un premier temps dans les services publics, mais à terme, et Sébastien Chenu le dit bien, à terme l'idée c'est de l'interdire partout.
En fait, moi je trouve que c'est très hypocrite de toujours parler que du voile. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire un référendum, à la limite s'ils le souhaitent, mais pour interdire tout signe extérieur d'appartenance religieuse. C'est-à-dire que soit on va au bout de la laïcité, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'a jamais été clair sur ça veut dire quoi être un pays laïque. Est-ce que ça veut dire on fait ce qu'on veut où on veut, ou est-ce que ça veut dire ça fait ce qu'on veut chez soi? Et à partir du moment où on fait ce qu'on veut chez soi, dans ce cas-là, plus aucun signe religieux ne doit être toléré en extérieur. Pas uniquement le voile pour surfer sur les peurs de l'islamisme, parce que bien évidemment, Il y a que des islamismes qui portent le voile, bien sûr.
Sandrine, Benjamin Morel va vous répondre. Et j'en profite pour doubler la question, Benjamin Morel. Est-ce qu'en fait, c'est possible d'interdire uniquement le voile ou est-ce que, comme le dit Sandrine, il faudrait interdire tous les signes religieux dans l'espace public?
Déjà, la question, c'est est-ce que c'est possible juridiquement? Ça, c'est pas tout à fait évident. Quand vous prenez notamment la convention EDH, etc., si on respecte le droit européen, voile ou pas voile, il est en effet assez difficile. Quand on a interdit le voile intégral, l'a fait non pas pour des raisons religieuses, on l'a fait pour des raisons d'ordre public, considérant que la dissimulation du visage pouvait représenter un problème de sécurité. Et si on est passé par ce détour, qui en fait était quand même un peu hypocrite, c'est que les solutions juridiques pour l'interdire sur une base religieuse étaient très réduites. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un risque juridique à minima au regard du droit européen et également au regard du droit constitutionnel.
Ça veut dire qu'il faudrait modifier la Constitution ?
Alors, ça veut dire qu'a priori, on aurait au moins un problème avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais que potentiellement, en effet, mais on n'a pas de jurisprudence du Conseil constitutionnel pour que je puisse vous l'affirmer, on peut avoir en effet des sujets de constitutionnalité. Ensuite, est-ce qu'on peut faire ça par référendum ? Ça pose un autre type de question, parce que normalement, ce qui relève du pénal, alors là, on parle bien de pénaliser un acte, en l'occurrence porter le voile dans l'espace public, ça ne relève pas du champ du référendum. Donc si vous couplez ça avec la réalisation d'un référendum, ça vous fait beaucoup, beaucoup de lignes rouges, a priori, à franchir.
Ce qu'on comprend derrière ce que vous nous dites, Benjamin Morel, c'est que c'est surtout une proposition très politique et on n'oublie pas qu'on est en campagne présidentielle. Merci beaucoup, Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public à Panthéon, Assas à Paris. Je remercie également Sandrine qui était avec nous au 32-16. Dans quelques minutes, ce sont les grandes gueules qui s'installent déjà avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier.
Salut Sébastien, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre pendant 3 heures de l'actualité. Emmanuel Devilliers, Abel Boyi, Barbara Lefebvre, ce matin, on va revenir sur le souhait du gouvernement de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les professionnels de santé. Et pas seulement les médecins, par exemple, les personnels qui travaillent dans les EHPAD, il faudrait les vacciner obligatoirement. Et on sait que tout le monde n'est pas d'accord sur cette obligation. Est-ce que c'est liberticide ou au contraire, c'est la meilleure chose à faire pour protéger notamment nos aînés ? Eh bien, j'attends vos appels au 32-16. Vous êtes nombreux, professionnels de la santé, à écouter les grandes gueules chaque matin. Venez débattre à partir de 9h sur RMC.
Les grandes gueules dans quelques secondes. Et moi, je vous dis à demain. Belle journée.